Service après-vente de la F1.
Bonsoir et bienvenue à tous pour ce SAV de la F1 spécial Grand Prix du Japon. Pour cette course au pays du soleil levant, votre émission du soleil couchant reviendra en détail sur tous les événements de ce week-end. Les actualités du paddock, le point sur les transferts, mais également l'actu qui passe inaperçu. Bien sûr, nous reviendrons sur cette course, il faut bien le reconnaître, quelque peu soporifique, alors que les qualifs mouvementés nous avaient laissé espérer de grosses animations le dimanche. Le top 8 du SAV, celui des auditeurs, l'effet marquant, les drive-thru, le chiffre inutile de Shinji ou encore le concours top pas position. Bref, une émission telle que vous la connaissez, si ce n'est que Yannick a troqué sa place contre celle d'Enzo. Enfin, je dis troqué, il a quand même fallu aligner les zéros du chèque. Mais avant toute chose, pour Alguersuari, Sutil, Kovalainen ou encore Glock, qui sont tous sortis pendant les essais, je voudrais juste citer ce proverbe criant de vérité. Si ta F1 marche à Suzuka après une sortie de piste, c'est que ton cockpit est percé et que tes pieds touchent le bitume. Bonsoir Shinji, bonsoir Yannick.
Bonsoir.
Bonsoir.
Attends, je regarde juste l'heure sur ma Rolex. Ok, d'accord.
Sur ma Rolex.
Oui, d'ailleurs.
C'est avec le chèque.
Si jamais l'émission coupe, c'est normal, on me livre ma Ferrari ce soir normalement. Donc, d'ailleurs, merci Enzo.
Bon, chers auditeurs, on va pas vous mentir. Si Yannick n'est pas aux commandes, ce n'est pas parce qu'il est une extension de voix. Sinon, non. On pourrait faire un
SAV en dehors.
Ce n'est pas non plus parce que... Non plus. Ce n'est pas non plus le CSA qui nous a imposé ça, comme pour les partis politiques. Est-ce qu'il y a besoin d'ailleurs, Yannick?
C'est pas toi. Parce que j'en avais marre, besoin de vacances, voilà, besoin de... J'ai des parties en retard dans le Top Spin, donc il faut que je les fasse. Et puis, voilà, j'avais envie pour cette fin de saison aussi que... Bah, que chacun puisse faire son émission, voilà.
Un événement à chaque émission. Voilà, il a eu de la chance quand même.
Bon, ce n'est pas parce qu'on change d'animateur qu'il faut changer les bonnes habitudes. Et on va tout de suite commencer par le chiffre inutile, le Shinji.
Oh non !
Service après-vente de la F1.
Le service après-vente de la F1 vous présente le chiffre inutile de Shinji. Un chiffre inutile, mais qui peut vous éviter d'avoir l'air con en soirée.
Alors Shinji, nous t'écoutons. Alors, sache quand même.
Oui.
Étant donné que je veux trouver ton chiffre inutile,
oui.
J'ai fait toute la fiche Wikipédia sur le Japon. Je l'ai tout
très bien.
J'espère juste que ça va me servir.
Attention Enzo, hein, tu t'es mis à la pression tout seul. Hein. Le chiffre, c'est 1872.
Le nombre d'îles.
C'est une date.
C'est une date.
C'est le début de l'Empire, c'est la Révolution, non? Oh non, c'est plutôt. 1872. Attends, je m'épose. 1872, c'est une date.
C'est un rapport c'est une date.
C'est un rapport avec... C'est la première ascension du Mont Fuji.
Non.
Du Mont Suzuka.
Non. Tu voulais dire quoi, Yannick?
Non, c'est un rapport avec la grande histoire du Japon.
Non, je dirais pas la grande histoire.
C'est l'invention du sushi, du sashimi, du bento, je sais
non.
pas.
Non.
La naissance d'Akira Kurosawa. Non, c'est plus tard.
C'est qui ça?
Oh non, ah non. Non, c'est juste le plus grand réalisateur japonais.
C'est l'apparition du premier journal quotidien japonais, le Yokohama Maini Nishi.
Peut-être, Nishi, mais c'est pas Shijishi. Ça.
Il a noté plein de trucs.
Il est en train de déplucher la page Wikipédia.
C'est une histoire anecdotique.
D'une certaine façon, c'est une anecdote, mais qui a eu de grandes conséquences.
Ne serait-ce pas la création du ministère particulier de la marine
par un
Français ?
Non.
Si, mais si.
Ah, c'est le drapeau national.
Mais non, ah non.
La guerre du soleil rouge, pour rouge sur fond blanc, devient le drapeau national. Si, c'est marqué.
Peut-être, mais c'est pas
mais
ça.
Mais attention, comme le concours top opposition, faut trouver ce que lui, il a en tête.
Voilà.
Oui, mais moi, je mets des indices. Moi, je fais une chanson pour et nous allons d'ailleurs toujours tout de suite écouter la chanson de Shinji.
C'est un thème que je n'ai pas encore abordé.
Bon, alors, les pandas, non? C'est en architecture, c'est ça concerne
c'est pas l'architecture. Non,
c'est l'armée, pas l'architecture. C'est lié à l'armée?
Non.
C'est un rapport lointain avec l'automobile?
Bah non.
Non, ça n'a pas de rapport avec l'automobile.
Avec la voie ferrée?
Il y a quelque chose, mais c'est pas du tout ça.
C'est l'introduction quelque chose au Japon.
De la roue.
Quand même.
C'est pas l'ouverture du Japon aux Occidentaux, ça c'est plutôt...
C'est, ils ont créé les lycées et les universités.
Non, mais ce que t'as dit Yannick, il y a un peu de ça.
C'est quelque chose qui a été introduit suite à l'ouverture en Occident.
Oui, s'il n'y avait pas eu l'ouverture à l'Occident, je pense pas que ça aurait été introduit.
La PlayStation.
Non, c'est eux qui ont introduit dans le monde entier la PlayStation. C'est pas pareil, c'est le sens inverse.
C'est un produit aujourd'hui qu'on connaît davantage comme un produit japonais ou... Enfin, c'est surprenant.
Ça n'est pas un produit.
C'est une institution, la création des sumo, les combats de sumo.
On s'approche du thème.
Du thème, alors du thème, c'est sportif.
C'est sportif.
L'introduction du baseball.
Bravo!
Yes!
quel rapport avec le Japon?
Parce que sport national au Japon, c'est pas le foot, c'est pas le sumo, c'est le baseball. L'introduction du baseball au Japon reste nébuleuse. L'américain Horace Wilson aurait initié cette introduction en 1872. Il existe comme à Cuba d'autres versions plus ou moins légendaires mettant plutôt en avant des étudiants japonais de retour des États-Unis. Donc tu vois, fallait bien qu'il y ait l'ouverture.
Oui, alors, ouais, voilà. Comme on a fait remarquer que j'étais de mauvaise foi, je porte réclamation parce que tu as dit « aurait introduit ». On n'en est même pas sûr de la date.
Ah, je te rappelle que Yannick, lui, l'a trouvé. La première certitude date de 1878 avec la mise en place d'un club au sein de la compagnie de chemin de fer de Tokyo. C'est pour ça que quand tu m'as parlé de chemin de fer... Le baseball devient un sport scolaire et universitaire dès les années 1880. Et donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire, le goût japonais pour ce sport ne vient pas de l'occupation américaine d'après-guerre. C'est beaucoup plus vieux. La première équipe professionnelle est créée en 1934, les Yomiuri Giants. C'est une équipe corporative rattachée à l'empire de presse Yomiuri.
T'étais pas loin, Enzo.
Comment ?
T'étais pas loin avec ton journal quotidien, là, les Yomiuri.
C'est vrai, aussi. D'ailleurs, les Yomiuri, pour vous dire, leur stade actuel, c'est le Tokyo Dome, et c'est aussi la plus grande salle de spectacle du Japon, avec 55 000 places.
Wow.
C'est un stade de fer. Et la ligue professionnelle débute ses activités en 1936 sous le nom de la Japanese Baseball League. Un nom très japonais.
Oui, effectivement.
Et en 1950, la ligue explose en deux ligues rivales, la Central League et la Pacific League. Et depuis, il existe des Japan Series qui opposent en fin de saison les champions des deux ligues.
À l'image du football américain.
Voilà, là, ça fait très américain. Et pour vous dire un peu le goût des Japonais pour le baseball, j'ai cherché le nombre de licenciés, mais j'ai pas trouvé. Par contre, j'ai un sondage de 2007 sur les sports pro préférés des Japonais. Eh bien, le baseball arrive premier avec 51,1. Le football, 22,8. Le sumo, 18,3.
Oh la vache.
Et Enzo, tu vas être content, le golf, 14,4.
C'est des foot golf. Alors le problème là, c'est que j'ai beau chercher, je vois pas où je vais pouvoir leur placer. Sinon.
Ah oui, moi je vois, oui. Est-ce que tu as le palmarès, parce que je sais que le Japon est une des plus grandes puissances en baseball. Tu as le palmarès par rapport aux États-Unis?
Je vais chercher un petit instant.
Juste une question, le baseball n'est pas sport olympique?
Oui. Alors il l'a été, mais il vient d'être supprimé.
Au profit du golf et du rugby.
Non, le golf, c'est pas encore fait, hein, qu'il soit
remis au JO. Oui,
ça sera fait en 2018, c'est bon. 2016.
C'est pas 12?
Non, c'est 2016.
Ah bon.
Avec le
rugby. C'est où les JO en 2016?
À Rio do Brasil.
Bah, il ferait mieux de le faire en 2012, alors que c'est en Angleterre. Au moins, il y a des terrains de golf. Ouais, au Brésil, il ne doit pas en avoir.
De toute façon, maintenant, on s'en fout les JO en Angleterre. Nous, ce qu'on veut, c'est les Rio de Brasil.
La samba et tout.
Voilà.
Donc, tu alors, n'as pas la réponse, Inji.
Alors, j'ai quelques.
C'est
données.
Malheureux.
Par exemple, en Coupe du Monde de baseball, ils ont été plusieurs fois troisième et même deuxième. Ils n'ont jamais été champions du monde de baseball. Oh. Oui, oui.
Regarde, ça va rien dire. Hein. Nous, je pense que le sport le plus populaire, c'est le foot. Et
on n'est pas doué. Si je prends aux Jeux Olympiques,
ouais.
Donc entre 1984 et 2008, ils ont toujours fini dans le dernier carré.
Et ils ont déjà gagné une médaille d'or.
Alors oui, mais c'était en 1984, c'était un sport de démonstration.
Ça, généralement, c'est dans ce domaine-là que nous on est bon, les sports de démonstration.
Ah oui, généralement, une fois que c'est officiel, c'est foutu.
Voilà.
Ouais. Sinon, il existe une classique mondiale de baseball, qui est une compétition internationale qui se déroule tous les 3-4 ans entre différents pays. C'est une coupe du monde, mais plutôt professionnelle. Alors, c'est très récent. Il y a eu que deux éditions, 2006-2009. Ça se passait aux États-Unis, mais le Japon a remporté les deux.
Ah, la vache. Trop bon.
Et donc, sinon, vous pouvez retrouver l'émission, donc, le SAV du baseball, animé par Sinji, sur savbaseball.fr.nf.
Ouais, mais c'est bien, on en est déjà à trois sports dans cette émission, la Formule 1, le golf, le baseball, vivement la suite.
Il y a que toi qui en fais pas, en fait.
J'ai pas envie de parler du foot américain en ce moment.
Bon, mais merci Sinji pour ce chiffre totalement inutile, comme d'habitude.
Oh non, 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 celui-là il était bien. Non, sérieux. Bon, je dis pas ça parce que je l'ai
trouvé. Attends, tu dis ça à chaque fois.
Non, non, mais généralement je le dis à chaque fois parce que je suis animateur. Mais là où je suis dans la position du mec qui anime rien, qui est juste là en visiteur, là je trouve ça bien.
Bon, on va maintenant passer à l'actu de la semaine. Alors, l'actu de la semaine, donc on a tous noté dans l'actu ce qui nous a marqué. Alors, ce qui est surprenant dans nos trois points, c'est que aucun ne concerne cette année. En fait, tout se concerne 2010.
Ah, mais c'est normal, hein. On arrive en fin de
saison.
C'est
complètement normal, bien sûr. Donc, on va commencer, je propose par Sinji, peut-être?
Oui, alors vous vous souvenez?
Ah, il y a des chouchous dans cette émission, pas incroyable.
C'était, je crois, il y a deux émissions.
Ah, faute! Désolé.
Oui.
Non, j'ai juste tapé trop fort dans ma balle, elle est trop loin.
Mais j'y crois pas, il joue vraiment en fait.
Il joue vraiment à Top Spin.
Vas-y, je dis, excuse-moi.
On avait évoqué McLaren et leur futur probable souci futur en termes de moteur. Et vous vous souvenez que j'avais évoqué le fait que peut-être, pourquoi pas, McLaren, au lieu de prendre un partenaire moteur classique, se mette à faire leur propre moteur. Et qu'est-ce qu'on a appris cette semaine? Une rumeur. McLaren pourrait être intéressé pour racheter le département moteur de BMW, puisque BMW ne sera plus en F1, hein, la partie châssis, elle va continuer, mais il y a cette partie moteur.
Ça serait énorme.
Ah, ouais. Ça serait énorme. Sachant que dans la rumeur qui était dite, parce que vous souvenez, quand j'avais parlé de l'évocation d'un moteur entre guillemets interne, j'imaginais plutôt quelque chose fait à working, avec un développement sur plusieurs années. Non, là la rumeur c'est carrément acheter l'établissement BMW pour avoir des moteurs dès l'an prochain.
Mais il se trouve en Allemagne ce bâtiment. Bah,
c'est à Munich.
Ouais, c'est à Munich.
BMW Motorsport.
Je pense que cette usine est complètement au milieu de tout le reste de BMW.
Ah, après, non. C'est ça qui m'étonne le plus, quoi. Justement, voilà, a priori, c'est un ensemble, donc cette division moteur, parce que BMW, c'est pas que la F1, le BMW Motorsport.
Si font ça, c'est forcément après pour déplacer l'activité et la ramener en Angleterre, je pense quand même.
Peut-être, oui, qu'il y a surtout l'idée, oui, de récupérer le savoir-faire.
Oui, voilà.
Et petit détail, c'est que donc on a demandé à McLaren, et McLaren ils ont dit « Ah non, mais nous notre but c'est pas d'acheter des moteurs BMW », qui n'est pas la réponse à la question, puisque s'ils rachètent le bâtiment, c'est pas pour faire des moteurs BMW, c'est pour faire des moteurs McLaren. Donc comme on dit, pas de fumée sans feu.
Oui, surtout que c'est cette année les BMW ont fait pas mal de fumée, donc...
Bon, qui est-ce qui profiterait de ça? C'est bien sûr Mercedes, qui va sans doute aller... on dit racheter même Braun Grand Prix.
Entre guillemets, ça arrangerait tout le monde. Je veux dire, à la limite, ils pourraient entre guillemets se séparer en bons termes.
Je pense même qu'on pourrait même aller plus loin, c'est de se dire que peut-être que Mercedes, voulant partir plus tôt, se débarrasser du contrat avec McLaren, leur donnerait des fonds nécessaires, donc négocierait une grosse enveloppe qui permettrait à McLaren de se racheter le département moteur de BMW.
Ah, c'est loin d'être idiot.
Merci.
Après, une société qui donne de l'argent pour racheter le concurrent, c'est un peu gros quand même. Mais...
Oui, non, mais c'est un peu à l'image de ce qu'a fait Ferrari avec Raikkonen, où ils ont donné l'argent pour que, soi-disant, même si rien n'est sûr, mais que Raikkonen parte chez McLaren. Là, peut-être que Mercedes, pour se débarrasser du contrat, leur dira, voilà, on vous donne 50 millions pour arrêter le contrat, et que ces 50 millions vont permettre à McLaren d'acheter son département moteur à BMW.
Est-ce qu'on connaît les termes de la relation entre McLaren et Mercedes? Ils ont un partenariat jusqu'à une date fixe.
Donc c'est un partenariat moteur qui fait que Mercedes non seulement fournit des moteurs, McLaren ne paie pas ses moteurs à Mercedes, hein, puisque Mercedes possède 40% de McLaren.
C'est plus qu'un partenariat moteur. C'est
vraiment une association.
Ouais.
C'est presque l'équipe constructeur, même si ça ne l'est pas justement parce que c'est McLaren. C'est quelque chose un peu à cheval entre les deux, justement.
Mais ce qu'on sait par contre, on sait qu'apparemment il y a une exclusivité McLaren qu'elle entend faire jouer cette année, notamment par rapport à Red Bull, et que c'est cette exclusivité-là qui fâcherait un peu Mercedes en ce moment par rapport à McLaren, parce qu'eux, ils aimeraient pouvoir élargir leur activité à d'autres écuries. Et donc McLaren aurait donné son accord à Mercedes pour fournir des moteurs à Brown ou à Force India qui n'étaient pas des dangers. Mais là, cette année, McLaren voit
Red Bull
fournir des moteurs à Red Bull. Déjà qu'ils ont en travers de la gorge Brown, si en plus faut armer Red Bull, ils sont pas forcément d'accord. Donc apparemment, ils auraient dit à Red Bull, non, niente, nada.
Après, moi, j'ai un doute sur les écuries BMW. Si elle vend sa partie moteur à McLaren, sachant que Mercedes possède 40%, même en termes de savoir-faire industriel, je les vois mal vendre leur savoir-faire
oui.
à un concurrent direct quand même. Hein.
Oui, mais
même s'ils seront plus en F1, si tu veux.
Est-ce que c'est direct? C'est surtout. Je pense que derrière ça aussi, il y a aussi l'objectif de faire des moteurs pour McLaren constructeur. Et donc ça fait partie de la guéguerre. On sait que la brouille avec McLaren et Mercedes, c'est en partie parce que
ça vient de ça. Oui.
McLaren fait des voitures routières et ça embêtait un peu Mercedes. Donc peut-être qu'effectivement le deal qu'il y a derrière, c'est de faire motoriser les modèles McLaren par cette branche moteur. Et donc ça ensuite ça aura un impact bien évidemment sur l'activité F1. Après ça peut très bien être fait comme Renault avec Mechachrome à une époque, hein, c'est-à-dire que tout simplement il y a un accord entre McLaren et BMW, McLaren oui, reprend la
Renault et Renault et Mechachrome n'étaient pas concurrents, ils n'avaient pas quand même une concurrence sur les voitures au standing ou sur les supercars, sur certaines supercars
ouais, qui peuvent Ça serait tout bon pour McLaren justement et pour BMW. BMW s'associerait à McLaren qui espère devenir une grande marque rivale des Mercedes, etc. Et pour McLaren, ça serait un peu la revanche de dire, vous voyez, on survit sans vous. Donc je pense qu'au contraire, ça serait une opportunité rêvée à la fois pour BMW et aussi pour McLaren.
Bon, ça implique quand même que Mercedes se désengage de McLaren.
Oui.
Donc il faut quelqu'un pour racheter quand même 40% de McLaren, je sais pas combien ça se chiffre.
Alors mais, Dennis, Lewis Hamilton.
Lewis. Oh, il y a bien deux ou trois émirs arabes.
Oui, voilà. Bah, les émirs, à mon avis, ils ont des billes aussi dans d'autres.
Ah, il y a bien deux ou trois oligarques russes. Voire mieux.
Peut-être aussi. Ok, bon bah merci Shinji sur cette actu. Bah toujours sur l'année 2010, ça s'affole au niveau des rumeurs et une écurie qu'on n'avait pas trop vue parce que on ignorait justement si elle serait en 2010, c'est Toyota.
Donc là tu me passes tu me
et je te passe le relais là.
Je suis pas habitué aux belles transitions comme ça, moi je fais des transitions brutales et tout. Non, là c'était bien fait, bien négocié. Oui, moi c'est un mélange d'actu et de coup de gueule. On a appris cette semaine que juste avant le Grand Prix du Japon, que Toyota, on en avait déjà parlé, allait sans doute libérer Glock et Trulli qui semble se tourner vers le NASCAR pour l'année prochaine. Et c'est pas le seul d'ailleurs. Et donc Glock aussi. Donc Toyota semble passer à l'offensive sur le marché des transferts. Et on a parlé notamment de Toyota sur Kubica et sur Raikkonen. Donc en dehors de l'actu, c'est surtout un coup de gueule, c'est la stratégie de Toyota qui est assez hallucinante. C'est-à-dire que là on voit que Ferrari se positionne sur Alonso depuis minimum 2-3 ans. On voit que la plupart des écuries bien implantées qui ont des prétentions, on sait très bien que Renault avait déjà un plan pour remplacer Alonso avec Kubica. Donc là où les écuries continuent à prospecter, on a l'impression que Toyota découvre le marché. Et donc là, ils ont découvert, ils sont chouettes en ce moment. Il y a Kubica qui est libre, il y a Raikkonen. Et ben, allons-y, passons à l'offensive. Et ils font des offres comme ça du jour au lendemain. Ils appellent les pilotes du jour au lendemain pour leur dire, voilà, vous nous intéressez. Sauf que le mec, il a déjà un contrat. Donc, c'est un peu n'importe quoi et c'est un peu décevant de la part d'un grand constructeur qui, en plus, apparemment, a quand même l'ambition l'année prochaine de prendre un pilote capable de marquer des points. Parce qu'ils ont quand même eu des mots très durs envers leurs pilotes pendant les 10 jours là qui ont passé, en disant que ils avaient eu des mauvais résultats, mais qu'une partie de ces mauvais résultats étaient en partie imputables à leurs pilotes, qu'offraient pas tout le temps les performances égales sur chaque Grand Prix. Ils n'ont pas forcément tort, mais en même temps, c'est eux qui les choisissent, ces pilotes.
Mais c'est assez nouveau pour eux, Toyota, parce que si tu regardes bien, quand tu signes un contrat chez eux, tu restes au minimum 3 ans,
oui,
quoi. Hein.
Oui, voilà.
C'est toujours des contrats long terme.
Ouais, c'est pas les plus actifs hein, au niveau des transferts. Hein.
Mais ils ont pas l'habitude apparemment. Et donc là, on, là, par contre, c'est ce que j'aime bien avec Toyota, c'est cette franchise. Hein. Ils nous ont dit en début de semaine dernière, bah oui, Kubica nous intéresse. Il y a aussi Raikkonen qui pourrait être intéressant. D'ailleurs, moi, Raikkonen, j'ai pronostiqué chez Toyota l'année prochaine.
Ouais, mais ça me fait rire. Ça me fait rire quand même. Hein.
Et
c'est pas possible. Il a dit qu'il voulait une voiture pour jouer le titre.
Oui, puis bon, demander Raikkonen alors que le budget va être à la baisse. Ouais.
Ah non, mais c'est ce qu'ils ont dit. Hein. Dans leur déclaration, ce qu'on sent, c'est qu'ils disent clairement que si le budget est à la baisse, il y a des choses qui ne baisseront pas. Et notamment, effectivement, apparemment, le budget pilote, lui, ne baissera pas. Hein. Ils sont prêts à claquer du pognon pour le pilote. Quitte même à faire baisser le budget voiture exprès pour le pilote.
En gros, c'est les seuls qui n'ont pas encore compris que la voiture faisait beaucoup. Peut-être plus que le pilote.
Ça, comme a montré Stan Ebron, quoi. Et donc, moi, ce que j'ai aimé, c'est ce moment de qui a un peu d'ailleurs foutu en l'air la communication Renault, parce qu'on a eu un petit suspense, une petite bagarre là ce week-end en se disant, Kubica va-t-il aller chez Toyota, va-t-il aller chez Renault? On a vu Kubica pas mal chez et pas mal chez Toyota, et puis eux le dimanche soir nous disent, oh, de toute façon maintenant ça y est, c'est mort avec.
C'est mort.
Et c'est ça, voilà, ils font des opérations de 3 jours alors que c'est un travail de fond. On se souvient déjà à l'époque, je crois c'était à l'époque de Raikkonen, où on disait Raikkonen allait chez Ferrari, il s'était positionné sur Raikkonen, il
avait au dernier moment plus court. Avant.
Au dernier moment, alors que le contrat il est quasiment signé chez Ferrari, et là ils vont se repositionner sur Raikkonen une nouvelle fois au dernier moment quand le contrat sera quasiment signé. Il y a plein de rumeurs sur Raikkonen en ce moment.
Ouais.
Non, voilà, c'était
y a la c'était l'actu coup de gueule, quoi.
Voilà, il y a la possibilité pour Toyota de faire un bon recrutement, surtout cette année, vu que l'échiquier est un petit peu contrebalancé. Il y a quand même des belles possibilités et ils en profitent pas.
Ouais, puis ce qui est intéressant pour amener les pilotes à Toyota, c'est que bon, l'an prochain, les voitures vont être des évolutions de cette année, plus ou moins.
Il y a une bonne base.
Et voilà, et pour une fois, il y a une bonne base.
C'est vrai.
Mais bon, c'est aussi la faute en incombe aussi à la direction. L'écurie peut pas voir à long terme, peut rien promettre à long terme, parce que déjà eux ne sont
pas
sûrs de leur avenir. Aujourd'hui, on a des déclarations de Howett, le team manager, qui essaie de préparer le terrain tout en rassurant sur l'avenir. Il fait un vrai numéro d'équilibriste là en ce moment.
Bon, pour compléter ce petit tour d'horizon donc
ton actu, de
l'échiquier 2010, moi je voudrais mon actu, ça serait justement de repasser un peu en revue l'échiquier 2010 qui commence à se mettre en place. Alors je voudrais
c'est pas une actu ça.
Bien sûr que si, parce qu'on il y a quand même dedans pas mal d'actu, de rumeurs et des trucs assez assez improbables, mais qu'on a entendu quand même à droite et à gauche. Hormis chez Ferrari et Toro Rosso, où on a confirmé à la fois le nom de l'écurie, le moteur et les deux pilotes. Bon, chez Ferrari, c'est facile.
Chez Red Bull, les deux pilotes sont confirmés.
Alors, oui.
Des rumeurs.
Sauf. Déjà, on ne sait pas si ce sera un Renault ou un Mercedes comme moteur.
Voilà.
Ça reste à décider. Et on a eu cette grosse rumeur de Raikkonen qui pourrait prendre la place de Webber.
Et ben honnêtement, moi je préférais le voir chez Red Bull que le voir chez McLaren.
Red Bull avec Vettel et Raikkonen. Oh mon dieu.
Alors là oui, là Shinji il en peut plus là.
Ah ouais, là c'est la dream
team action.
Faut quand même dire à la base que les rumeurs sur Raikkonen viennent du fait que lui a dit que chez McLaren il n'y avait rien de fait. Que il pensait peut-être à se retirer et que voilà, donc lui, chez l'affaire McLaren-Raikkonen, n'a pas l'air d'être aussi bien embarqué que ce qu'on pouvait penser.
Et Raikkonen a dit de toute manière qu'il voulait une voiture pour gagner.
Voilà, donc McLaren déjà...
Pour jouer le titre.
Allez, et que McLaren s'exclut.
Oh.
Et que si jamais il quittait la F1 et qu'il faisait du rallye, là aussi il voulait une voiture pour gagner. C'est-à-dire Ford. Ou Citroën. Il est pas exigeant, le monsieur.
Non, mais non, mais il a raison en même temps. Honnêtement, avec ce qu'il va toucher de chez Ferrari, moi, je serais lui, je créerais moi-même mon équipe.
Alors, on en parle. Non, c'est pas vrai.
Raikkonen et fin de team.
Donc, l'autre piste de Raikkonen, c'est soit McLaren.
Oui. Donc, un soit Robert Kay.
Soit Brown Grand Prix. Qui pourrait s'appeler Mercedes l'an prochain.
Voilà.
Sinon, après Brown, il y a la grosse piste Rosberg.
En fait, le même duo Rosberg-Raikkonen, on le retrouve à la fois chez Brown et à la fois chez McLaren.
Voilà. Ouais, voilà.
Alors, dans quel sens? Qui est à côté d'Hamilton? Qui est à côté de
Aucun
Bottas?
Aucun des deux.
Glock? On parle de Glock aussi.
Moi, j'ai une préférence. Honnêtement, chez McLaren, j'ai une préférence pour Sutil.
On l'a pas souvent nommé, quand même.
Oui, non, mais je suis pas d'accord. Il y a que moi qui le nomme quasiment. Mais Sutil, on le nomme ailleurs.
Sutil, on va peut-être finir quand même sur McLaren et Brown Grand Prix. Brown Grand Prix, Button.
Il Button, y sera encore. Ouais. Oh, je pense. Ah. Si Brown accepte de lâcher un peu d'argent.
Ouais, parce que apparemment, la dernière fois qu'elle aura fait, c'est quand même 5 millions et demi, hein.
Ouais. Alors qu'il gagne 5 millions cette année.
Alors que Rosberg va le contrat de Rosberg avec Mercedes serait un contrat de 12 millions par an. Tu vois, Rosberg débarquer chez Brown avec 12 millions de salaire face au champion du monde en titre, probable champion du monde en titre, avec 5 millions et demi d'euros seulement. Alors qu'en plus, Button a quand même consenti, pour rester chez Brown, etc., a quand même consenti des sacrifices financiers assez importants cette saison.
Alors le problème de Button, c'est s'il reste pas chez Brown, où va-t-il?
Renault. Avec Kubica. La Dream Team. Non, mais je pense qu'il restera chez Brown quand même.
Ouais.
À voir.
Bah, c'est quand même son écurie historique, quoi. Il y allait à l'époque de Barr. Il y allait à l'époque de Honda, maintenant il y a...
Bah, Renault aussi, hein.
Il est quand même pas parti, alors qu'il avait été contacté par Renault l'année dernière, il est resté chez Brown, parce qu'il avait la conviction que l'écurie était bonne. Là, il est dans une écurie où il sait, quoi qu'il arrive, que, je vais pas dire que ce sera le chouchou, mais que, potentiel champion du monde, théoriquement, et moi, je serais lui, j'en resterai. Faut surtout pas faire une démonie, là.
Alors, justement. Ouais. Justement.
Le retour de Démonil.
Puisque tu me parles de Démonil, j'ai une petite question avant de continuer sur l'actu. Quels sont les pilotes, si jamais Button quittait Brown Grand Prix, quels sont les derniers champions du monde qui ont quitté leur écurie après un titre?
Il y a beaucoup de pilotes Williams.
Alonso,
qui est parti chez McLaren en 2007.
McLaren.
Démonil.
Ouais.
En 96, qui est parti chez...
Arrows.
Il aura d'ailleurs offert une victoire ou un podium, je sais plus.
Ni l'un ni l'autre, deuxième place.
Un
podium, pardon.
En Hongrie,
Villeneuve a doublé dans le dernier tour.
Villeneuve, non, il est resté après chez Williams.
Ouais, une année.
Donc là on est en 96. Schumacher, qui a quitté Benetton pour Ferrari.
Oui. Exact.
95. Avant, c'est 94. 93, on a dit Prost. 92, c'est Mansell qui est parti. Il est parti, je crois, Mansell.
Il est pas parti sur le coup, ouais.
Il est parti en IndyCar.
Voilà. Ouais. Et après, il est revenu chez Mercedes, chez McLaren.
Et après, il est revenu déjà chez Williams à la mort de Senna au Grand Prix de France et au Grand Prix d'Australie où il a remporté sa dernière victoire pour le dernier prix de la saison. Et effectivement, l'année suivante, il a essayé de conduire chez McLaren Peugeot. Mais le baquet était un peu trop petit pour lui. Pardon, pas assez large.
Ouais, on connaît ça.
Bon, voilà, c'était les derniers pilotes. Ça serait quand même une bombe que Button quitte.
Ouais.
Ouais, ouais, ouais.
Et ce qui est marrant, c'est que si c'est Barrichello qui gagne, il quittera aussi.
Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Bon, Barrichello, ça semble entendu, mais par contre, Button...
Alors, Barrichello, deux destinations possibles. Williams.
Ouais.
Et USF1.
Ouais.
Ouais, les deux se tiennent. Enfin, il y a de l'idée derrière les deux.
Je préfère la troisième, personnellement. Je préfère le bon vieux retour à Rio du Brésil.
Dans ses chaussons et tout, dans son canapé.
À faire un barbecue de temps en temps avec Felipe et Nelson
Piquet. Il a quand même dit qu'il y avait 99% de chances qu'ils soient en F1 l'an prochain. Donc, on parlait des grosses rumeurs, donc, de Raikkonen chez Red Bull pour remplacer Weber. J'ai entendu comme grosse rumeur aussi le rachat de Renault par ProDrive.
Oui, ça fait un bail, cette rumeur-là.
Ouais. C'est un peu tombé. La possibilité USF1 d'avoir Toyota comme moteur et non pas Cosworth.
C'est un grand marché, hein, Toyota aux États-Unis. Hein.
Toyota fait vraiment une percée dans le sport automobile américain. Ils sont très présents en NASCAR, voilà. Et donc, ouais, s'associer pour Toyota et pour et pour USF1 qui aimerait bien eux aussi s'associer avec Toyota, parce que voilà, c'est Toyota, c'est un grand constructeur, c'est de la visibilité, alors que Cosworth, bon voilà, ils ont pris Cosworth un petit peu le couteau sous la gorge et tout.
Complètement. Et une dernière rumeur également peut-être improbable, mais pourquoi pas, ça serait l'arrivée de Trulli chez Lotus.
Ouais, mais valeur NASCAR, oui. Trulli.
Avec Piquet?
Oui, il va faire des tests en NASCAR pour la Michael Waltrip Racing.
Ah.
Prochainement.
Et tu crois qu'il va pas, s'il a la possibilité restant F1, il le fera pas?
Je pense qu'il le fera, mais après, je pense qu'il a, ça dépend aussi des conditions. Maintenant, je pense que il a peut-être un petit peu fait le tour de la Formule 1, et peut-être qu'il va aller voir ailleurs. Là, il va tester en NASCAR.
Oh, il a pas fait toutes les écuries encore.
Non, voilà, non. Il y a une petite bataille interne avec Fernando Alonso.
Ouais. Certes.
Mais par contre, alors c'est du en parlant de Fernando Alonso et de Trulli, il y a beaucoup de rumeurs là, c'est sur le second baquet de chez Renault.
Oui, aujourd'hui alors, même, là, oui, on a vu des rumeurs aujourd'hui.
Des Allemands en pagaille. Hetfeld.
Locke, Hetfeld, Sutil.
Bon, Grosjean bien sûr.
Oui. Ouais. Bizarre, le nom Bourdais n'a pas circulé. Alors qu'il a quand même gagné la dernière course de Super League Formula et qu'il a fini deuxième.
Non, pas encore.
Ah, oh, non, s'il te plaît.
Et il a marqué son point, je suis désolé.
À noter aussi que chez Williams, le deuxième baquet est quasiment assuré pour Hülkenberg. Ouais.
Et à noter aussi que je viens de gagner mon match. Mais bon, ça, tout le monde s'en fout.
Complètement. Et puis après, si on se projette plus loin en 2013...
Alors, c'est le même garçon qui nous disait la semaine dernière...
Complètement, oh, non, mais là, j'anime, vous... alors c'est ce que je veux.
Vous faites votre projection, là.
Si, parce que deux infos intéressantes que j'ai lues. Audi pourrait venir à l'horizon 2013.
Ah, ça, ainsi... c'est une arlésienne, ça.
Ouais. Oui, ça, on est bien d'accord, mais plus fort. En 2013, Honda pourrait revenir si on autorisait le moteur à hydrogène.
Ça c'est déjà mieux. C'est déjà plus crédible. Audi, ça fait des années qu'on nous dit qu'Audi va revenir. Enfin, va venir.
Non, venir même tout court.
Il y a même, pour ceux qui ça intéresse, vous cherchez sur Google Audi F1 et vous retrouverez, il y a un truc qui a été fait par un fan et qui est une version Audi d'une Formule 1 calquée sur l'ancien design des Audi R10 en Le Mans Series. Par contre, Honda, oui, ça on sait très bien que Honda, c'est...
Ils l'ont dit, hein, qu'une fois que la crise serait passée...
Honda, c'est comme Renault, c'est cyclique.
Voilà, ils n'ont jamais fermé, ils n'ont ferment pas la porte.
Voilà, de toute façon, c'est un constructeur et un motoriste de Formule 1. Ils étaient associés avec plein d'écuries. Ils ont été présents deux fois en tant que constructeur. Donc, oui, moi, de toute façon, moi, le retour de Honda, j'y crois. Surtout que c'est un constructeur qui a vraiment la mentalité F1. Même s'ils sont partis...
Bon, ils savent pas forcément les faire, mais... Mais dans la mentalité, c'est un bon début déjà.
Le jour où ils ont su en faire, bah ils l'ont vendu.
C'est pas faux.
Mais apparemment, ils regrettent rien.
Oui, bah.
Ah, y a intérêt à ne rien regretter.
C'est facile à dire. Je pense qu'il y a quand même 2-3 mecs qui se sont pendus cette année, mais.
Je pense. Bon, je pense qu'on a fait le tour de ce que nous réserve la saison 2010. Bien sûr, on pourrait y passer des heures.
Oui.
Mais je vous propose maintenant une autre actu complètement inaperçue.
Ah,
service après-vente de la F1.
Le service après-vente de la F1 vous présente la question actu qui passe inaperçue. Youhou, l'actu, où es-tu?
Je l'adore. Je l'adore.
C'est mon préféré.
Ouais, honnêtement, ouais. Alors, messieurs, vous connaissez la règle, pas de Google, pas de tout ça, vous essayez tout.
Jamais.
D'accord. Et ma question est simple, elle est très courte, elle tient en quelques mots. Donc, qu'a-t-on pu découvrir au Makuhari Messe? Je m'excuse auprès de tous les Japonais pour la prononciation.
Attends. Makuhari Messe.
C'est un musée?
C'est pas un musée.
Un parc d'attractions.
Alors, ouais, c'est pas un musée, mais ça a parfois la vocation de musée.
Un parc d'attractions. C'est un lieu d'exposition? Stade?
C'est un lieu d'exposition.
Mais c'est pas un musée.
C'est pas un musée.
C'est une galerie d'art?
Ça sert de temps en temps de musée, c'est pas une galerie d'art.
Une F1 fabriquée en cure-dent?
Non. En baguette peut-être, mais non.
Ah oui, en baguette. Non, mais je cherche un truc japonais, j'ai trouvé que cure-dent.
Et c'est à Suzuka?
C'est pas à Suzuka. Ah,
c'est à Tokyo?
C'est pas à Tokyo, c'est dans la périphérie de Tokyo.
Mais est-ce que ceux qui étaient au Grand Prix de Suzuka ont pu aller le voir?
Alors, ceux qui étaient au Grand Prix de Suzuka n'ont pas pu aller le voir. Par contre, ceux qui n'étaient pas au Grand Prix de Singapour pouvaient aller le voir.
Oh là. Ceux qui n'étaient pas au Grand Prix de Suzuka.
Oh, il s'est passé quelque chose pendant le Grand Prix de Singapour.
Le Grand... Voilà, ok.
Voilà. Et ça s'est passé au Makuhari Messe.
Eh bien,
inauguration
ont...
Non, pas une inauguration.
Ils ont transmis le Grand Prix de Singapour au Japon.
Non. Je peux même vous dire, c'est la 19e fois que ça se déroule.
Un concours de karaoké?
Non.
C'est tous les ans?
Tous les ans.
Un concours de jeux vidéo?
C'est même tous les ans depuis 1996. On approche.
Un concours de jeux de rôle, de combat, de...
C'est pas un concours.
De sumo.
C'est le Tokyo Game Show?
Oui, c'est le Tokyo Game Show. Alors, c'est le grand salon de jeux vidéo de Tokyo. Alors, qu'est-ce qu'on a pu y voir? Qu'est-ce qu'on a pu y découvrir?
Mais c'est...
Formula One 2010?
Non!
Ah. Oui, mais j'ai objection.
Pourquoi?
Oui, je sais, je suis encore de mauvaise foi. Mais c'est une question actuelle qui passe inaperçue, mais c'était pendant le Grand Prix de Singapour!
Ah oui, mais c'est un rapport avec le Japon. Et ce que tu vas voir, tu écouteras les explications, il y a un rapport direct avec le Grand Prix du Japon.
Bon, ça va.
C'est pas un jeu vidéo sur la F1.
Alors oui, c'est un jeu vidéo sur la F1, mais c'est pas Formula One 2010. Dépêche-toi, Enzo.
Tiger Woods 2010?
Mais non!
Formula One 2011?
C'est pas Formula One 2010.
2011?
2011?
Non.
2009? Oui, bravo, Enzo! Donc, effectivement, le Makuhari Messe est un centre de convention dans la périphérie de Tokyo, dans lequel s'est déroulé, effectivement, le Tokyo Game Show, la 19e édition, qui s'est déroulé du 24 au 27 septembre dernier.
C'est le plus grand salon de jeux vidéo, vous en doutez bien.
Devant celui de Détroit ou je sais plus où aux États-Unis là.
Alors, bah.
En Détroit peut-être pas, ça doit être les voitures Détroit.
Ouais, celui de Los Angeles. Oui, celui de Los Angeles. En taille, il est plus gros, mais si tu veux, comme au Japon, t'as tous les éditeurs japonais. Disons, en taille, c'est pas forcément l'américain, il est plus gros, parce que le marché américain, il est plus gros. Mais c'est vrai qu'après, en importance, en avant-première...
Qualitativement, c'est le meilleur. Même si cette année, apparemment, ça n'a pas été folichon.
Oui, il y a eu moins de monde. Mais c'est donc, la crise, hein, même au Japon.
C'était l'occasion...
Surtout au Japon.
C'était l'occasion pour Codemaster, qui est en charge du retour de la franchise Formula One, de présenter un nouvel extrait de son jeu pour 2009, qui est prévu pour une sortie, si je ne me trompe pas, au mois de novembre. Ça doit être le 18 ou le 19 novembre. Sur Wii et sur PSP, d'accord. Ceux qui ont des vraies consoles, comme la PS3, hein, que j'ai actuellement devant les yeux, qui est allumée avec l'écran allumé, la Xbox, et c'est tout.
Peut-être le PC.
Ceux-là
sur la DS, ça ira pas.
Sur la DS, non. Apparemment, non. et donc ceux-là devront attendre les vrais gamers sur des vraies consoles. Devront en même temps un vrai gamer qui joue à Formula One. Faut trouver. Les vrais gamers attendront, eux, fin 2010 pour trouver l'édition 2010 de Formula One Codemaster. Et donc, à l'occasion du Tokyo Game Show, ils nous ont montré tout simplement ce que donnait le circuit de Singapour. Et ils ont renouvelé cette opération à la veille du Grand Prix du Japon en nous dévoilant le Grand Prix du Japon, le circuit de Suzuka version Formula One 2009.
Ouais.
Une actu intéressante, ça, hein.
Tout à fait. Ah ben là, oui, il y a des gens...
Bien évidemment, Formula One 2009 n'était pas l'attraction de ce Tokyo Game Show. La vraie attraction en matière automobile, c'était...
Gran Turismo 5.
Gran Turismo 5, que ça fait environ 5 ans qu'on nous le promet et qu'on se dit « Ouais, vivement bientôt !» Alors rassurez-vous, théoriquement c'est pour bientôt, c'est pour le printemps 2010.
Oui, parce qu'il y a eu un report.
Voilà, il y a eu un report, ça devait sortir avant Noël normalement, mais c'est encore un report. Et on a appris quelque chose de fantastique au Tokyo Game Show, on a appris que il y aurait bien des Ferrari dans le jeu.
Parce qu'on avait déjà.
On pensait que la licence Ferrari quitterait Gran Turismo et se concentrerait seulement sur Forza Motorsport 3. Eh ben non, ils vont rester dans Gran Turismo et d'ailleurs tous les stands permettaient d'essayer une Ferrari qui, de l'avis des utilisateurs, est plus compliquée à piloter qu'une BMW M3 ou non, une Subaru. Attention, c'est de l'info le premier pour vous, messieurs. Hein.
Ah bah oui, pour ceux qui ont une console, ouais.
Alors,
et tu peux pas nous parler de Tiger Woods 2010?
Non, j'ai pas trouvé d'info. Non, pas envie. Je pense pas que vous en ayez parlé.
Il est déjà sorti.
Et donc, à noter quand même que toujours dans le domaine sportif, le Convention Center Makuhari Messe accueillera le 41e Tokyo Motor Show du 24 octobre au 4 novembre prochain. Donc pour ceux, si jamais vous avez rien à faire avant d'aller à Abu Dhabi, non c'est Dubaï.
Faites un petit détour
pour voir les Backstreet Boys. Faites un détour par le Japon, allez à Tokyo dans la périphérie. C'est
puis aller au Japon juste pour aller voir des bagnoles, c'est super.
Un voilà. Petit saut de jet.
Ou attendez tout simplement 2010, hein, septembre, pour avoir le salon de l'auto à Paris.
Ah, c'est plus simple aussi.
Voilà, c'est plus près. Ah, ouais. Moins cher. Ouais. Moins bucolique par contre, il y a moins de...
Mais ça dépend, on a peut-être des auditeurs japonais.
Donc voilà, c'était ma question actu.
Eh bien merci Yannick.
Mais de rien.
Bon, on va enchaîner donc maintenant avec la course quand même. Et avant tout, les qualifications. Donc on reprend le format qu'on a inauguré.
Il n'y a pas de jingle.
Eh bien non.
Oh, c'est quoi cette émission?
T'en as pas fait. J'y peux rien.
C'est qui a calculé les moyennes? C'est Yannick ou Enzo?
Oui, c'est moi.
Eh ben, je te dis bon courage, vu la qualif qu'on a eu droit.
Mais attends. Attends avant de me le dire. La qualif, alors donc on reprend le format qu'on avait pris, donc avec une moyenne par équipe. Et j'ai fait, oui, bon courage, mais je me suis pas fait suer. En fait, j'ai pris la position sur la grille, vraiment, quoi.
Ah, d'accord.
D'accord.
Toi, tu as fait avant pénalité.
Voilà, sur le...
Ah bah, c'est intéressant, on va pouvoir comparer.
Comme j'ai trouvé d'ailleurs j'ai trouvé sur internet la manière de faire des tableaux. Donc maintenant, à chaque Grand Prix, vous aurez la possibilité, en qualification et en course, de retrouver le classement, de trier les colonnes.
Ah, on peut trier?
Ouais, vous pouvez trier.
Ouais, hein. J'avais pas vu. Ah non, c'est mieux prévu quand même.
Bah, donc voilà, ça permet comme ça à chaque le samedi et le dimanche après la qualification de venir discuter.
Ah, c'est pas mal fait. Hein.
De la performance.
Donc. On comparera par rapport au résultat non corrigé, on va dire.
If you want.
Ouais.
Donc, une équipe exclue de la Q1.
Une seule.
C'est Renault.
Non.
C'est Renault. Avec une position moyenne de 16,5.
Il y a eu une pénalité pour Alonso.
Ah oui, avec une pénalité pour Renault.
En plus, alors.
Assez injustifié, peut-être.
Oui, j'ai trouvé ça pour Alonso. C'était un peu dur quand même.
Le truc, c'est ça a été derrière très drôle, c'est que sur le système de pénalité, il a fallu attendre une heure avant la course pour avoir la grille définitive. C'est parce qu'en fait, ils ont pris donc dans l'ordre des pénalités. Donc comme Alonso est le premier à être passé par la zone où il y avait les débris sans respecter le drapeau jaune, ils ont appliqué la pénalité à Alonso qui a donc reculé de 5 places. Ils ont refait le classement. Ouais. Et ensuite, ils ont imputé la pénalité au deuxième, ce qui fait que certains, au lieu de prendre 5 places, ont gagné, ont pris 3 places au lieu de 5. Et un mec comme Alonso, je crois qu'Alonso, en qualif, il est 12e. Et là, je crois qu'il part 16e ou 17e. 16e. Donc voilà.
Il perd 4 places. Hein.
Voilà, à ce jeu-là, il n'y en a aucun vraiment qui a pris 5 places. Il y en a qui ont pris moins, il y en a qui ont pris plus.
Bah, c'est assez surprenant quand même leur façon de faire. Hein. Barrichello, qui avait été pénalisé, qui se retrouve 6e.
Ouais, une place.
Sachant qu'il est pénalisé de 5 places, c'est comme s'il avait fait la pole. Quoi. C'est ça qui est assez... Moi, j'ai trouvé assez discutable leur classement, en fait. C'est un peu bizarre. Moi, j'aurais pris vraiment l'arrivée, j'aurais mis moins 5 à tout le monde.
Voilà.
Ça te donne une position et après, on regarde, quoi.
Surtout enfin, que pour le coup, ça corrigeait vraiment l'injustice, je dirais. Là, ça corrige, mais anormal.
Ouais. Et la pénalité d'Alonso, pour revenir à l'espagnol, elle est un peu comme celle de Rosberg. Bon, cette fois, je défends Rosberg. à savoir que, oui, ils ont peut-être pas ralenti lorsque Buemi a mis sa voiture dans le mur. Par contre, ils ont stoppé leur élan puisqu'ils sont rentrés au stand. Ils ont pas signé de chrono.
Oui, c'est ça.
C'est ce que nous demandait Maël sur le blog. Comment savoir s'ils ont respecté ou pas le drapeau jaune? Et c'est ce qui s'est passé avec Rosberg après la course. Il y a eu le drapeau jaune, je crois que c'est d'Alguersuari, et il y a eu une enquête. Et dans l'enquête, ils ont dit ils nous ont expliqué qu'il avait été averti. On lui avait dit un autre truc pendant le drapeau jaune, donc on lui a dit le drapeau jaune un peu après. Donc il y a eu un léger décalage, mais n'empêche, la télémétrie nous a montré qu'il a bien suivi la procédure que doit suivre un pilote sous drapeau jaune, même s'il a amélioré, même si il a conservé l'écart. apparemment, en qualif, ils ont vraiment pris pour chaque pilote la télémétrie, ils ont regardé la télémétrie, et apparemment, les pilotes qui ont été pénalisés, c'est des pilotes qui n'avaient pas du tout décéléré sur ce tronçon-là. Il fallait vraiment voir dans la télémétrie qu'il y avait une décélération.
Je ne sais pas si vous avez regardé les qualifs, mais moi, pour une fois, je les ai regardés, ce n'est pas toujours le cas. C'est vrai que les Brown Grand Prix, elles étaient au taquet. Hein. Elles
ah, ont bah, ouais. Ah moi, j'ai vu Barrichello, je me suis dit, lui, il va prendre une pénalité.
Ah, c'était hallucinant.
C'était super flagrant, il allait super vite.
Il est passé en plein milieu, à fond les manettes, et Button, pareil derrière. Quoi.
En même temps, on leur en veut pas. C'est totalement mérité comme pénalité, mais en même temps, on leur en veut pas... ils sont dans les dernières minutes de la qualif, ils jouent la pole, il n'y a pas la voiture qui est en plein milieu, donc les mecs se poussent à bout. Et je pense qu'il n'y en a aucun qui a contesté ces pénalités.
Non, il n'y a pas eu de contestation.
Voilà, les
non,
mecs, ils ont tenté le coup, ils ont essayé de voir si ça passait. Bon, ça passait pas, ils se sont tous fait gueuler.
Par contre, Buemi s'est pris une pénalité.
Oui, parce qu'un peu comme
Vettel en début d'année, si je me rappelle bien. Voilà.
On remarquera que Buemi prend une pénalité, Vettel prend 50 000 dollars.
Mais c'est parce qu'en BMI, ça fait pas longtemps qu'il est en F1, il a pas beaucoup d'économies. Donc ils n'ont pas osé. Par rapport au classement non corrigé, t'as pas la même chose. Je pense pas que Renault soit en queue de peloton.
Tout simplement, on a Alonso 12e et on a Grosjean qui est 18e, ça fait 15e. Donc ils seraient eux en Q2, dans notre Q2 à nous.
Donc toi, tu dis 18e.
Il était 18e.
Voilà.
Mais il est revenu 17e parce que comme Glock n'a pas pris le départ...
Voilà.
Ah oui, exact. Glock voilà. Était avec un...
Glock a participé à la Q1, donc...
Exact. Q2, non.
Q2. Non, oui, Q1 et Q2. Oui. Il est sorti en...
Il est sorti en Q2.
Ah oui, pardon.
Il a fait un
Q3. Je croyais Q3, oui, tout à fait.
Mais il y a eu tellement d'accidents dans cette qualif.
Ouais.
C'était assez hallucinant quand même.
Trois drapeaux
rouges pendant la Q2...
C'est ce que je disais dans l'article hein, sur les qualifs, je disais quelques chiffres pourraient suffire à définir cette séance de qualification dantesque. Un pilote non partant, Weber, trois drapeaux rouges pour Alguersuari, Glock et Kovalainen, un drapeau jaune provoqué par Buemi et six pilotes pénalisés de 5 places respectivement pour ne pas avoir levé le pied sous drapeau jaune.
En temps réel, bien sûr la qualif en soi a duré le temps parce qu'il y a eu les drapeaux rouges et les arrêts, mais en temps réel elle a duré 1h30.
Voilà.
Oui.
Alors à part peut-être en Hongrie... parce que bon, c'est particulier, je suis pas certain qu'on ait eu une qualif aussi longue que ça.
Non, ça
c'est... Et je dirais bon point pour TF1 peut-être... qui nous l'a pas coupé.
Ouais.
Surprenant quand même.
Alors la suite.
La suite, notre Q2, donc première éliminée de la Q2, Force India Mercedes, avec une moyenne de 13, position moyenne 13, sachant que Sutil, donc, qui était en Q1, a été pénalisé.
Ouais.
Donc c'est quand même grosse baffe, quoi, hein, pour...
Bah ouais.
Pour Force India.
Bah c'est surtout Ludi qui plombe le résultat quoi.
C'est vrai.
Parce que Sutil en temps réel il se qualifie 4e quoi. Donc il est au niveau de ce qu'avait montré sur un circuit comparable, ce qu'avait montré Fisichella à Spa-Francorchamps. Donc il est 4e.
C'est vrai qu'on attendait encore une fois pas mal les Force India. Sutil Luigi n'a pas été capable de nous refaire le coup de Monza.
Ouais.
Il était pas galvanisé par son public. Mais puis Sutil, il nous a fait ce dont il nous avait habitué aussi bien à Spa qu'à Monza, c'est-à-dire rapide en qualif, quoi.
Ouais. Mais franchement, c'est une satisfaction cette année Sutil. J'avais quand même l'impression sur ce garçon, c'est que c'était un mec qui était très bon sur la pluie, qui était très bon sur certains circuits extrêmement exigeants, mais que sur les autres circuits, il était assez moyen. Et là, ça fait quand même plusieurs courses qui nous montrent qu'il est bon sur tous les circuits.
Les circuits rapides.
Voilà.
Voilà. Et c'est pas pour rien qu'on parle de lui dans d'autres écuries, hein, pour le coup. Alors qu'il y a un an, on se disait, est-ce qu'il va pas ronronner chez Force India? Là,
on en parlait déjà l'an dernier chez McLaren, hein.
Ouais.
Oui.
Pitton, hein.
C'est vrai.
Et moi, je pense qu'honnêtement, cette année, c'est un pilote qui pourrait faire le compromis chez McLaren, rapide,
pas trop gênant,
parce que bon,
Lewis.
C'est pas au niveau de Lewis, mais moi, je pense que c'est un pilote qui pourrait faire le compromis. En plus, il est allemand. Why not?
Devant Force India, Toro Rosso, Ferrari. Sans pénalité, là j'aurais tendance à dire. Hein. C'est leur position, je pense assez moyenne dans l'année. Hein. De toute manière, ils étaient quand même en queue de peloton. On est loin de la Toro Rosso de 2008. Quoi.
Buemi fait quand même une belle
qualif. Buemi, oui.
Il va en Q3.
C'est vrai qu'il va en Q3.
et même je dirais même Albert Suari fait des fautes, mais il a fait un week-end où il a montré qu'il était assez rapide. Voilà, donc moi c'est une petite satisfaction quand même pour Toro Rosso. C'est vrai qu'on est très très loin de Toro Rosso l'année dernière.
Ils ont récupéré des pièces de Red Bull à l'occasion du Grand Prix de Japon.
Ceci explique cela peut-être alors.
Voilà.
En même temps, avec Weber qui dépose ses pièces sur la piste, bon.
Ah bah, il n'y a plus qu'à se baisser, hein.
D'ailleurs, c'était un festival des pilotes Red Bull parce qu'il y a quand même trois pilotes Red Bull qui sont foutus dans le mur.
Ouais, et là, ils vont devoir en vendre des canettes, hein, parce que là, vu tout ce qu'ils ont pété en trois jours.
Oui. Ensuite, regroupé donc encore en Q2 avec la même position moyenne, la Williams Toyota et la Toyota. Les Williams Toyota et la Toyota.
Ouais.
Puisqu'on a eu tout seul Trulli, ouais. Mais forcément, si on considère que Glock est dernier, il plombe un peu le résultat, on va dire. Hein.
Voilà.
Donc, la Toyota, on peut dire que si Glock avait pu participer aux deux dernières séances, bon, ils auraient été dans notre classement de Q3, quoi. Et sans doute beaucoup plus haut, quoi.
Par contre, pour Williams, ça c'est pas certain, parce que de toute façon, Kazuki est très loin et Rosberg était 11e au temps, et ils ont bénéficié de ils ont amélioré leur position grâce aux pénalités.
Ouais, c'est pas un circuit vraiment pour eux, hein.
Non.
À noter quand même que Toyota, pour ses qualifs du vendredi, a fait tourner son troisième pilote, puisque Glock était malade.
Malade. Ouais.
Ça peut être un week-end pour Glock.
Non, tout à fait. Mais ils n'ont pas pu l'aligner en course parce qu'ils n'avaient pas participé aux essais du samedi.
Ah, donc
Ils
fallait une dérogation des équipes, et je crois qu'il y a une équipe.
Et non, visiblement, ils ne l'ont pas obtenu. Oui,
bah, c'est Williams qui a dit non.
Oui, je crois. C'est sans doute Williams.
Pourquoi Williams?
Parce que c'est toujours eux qui disent non.
Parce que Williams, c'est comme la poupée. Elle dit non.
Oui, mais elles ont un moteur qui s'appelle Toyota.
On en reparlera.
Oui, mais c'est peut-être un moyen, justement, de vraiment consommer le divorce avec Toyota.
Mm. On en reparlera, il a dit.
Ah, ça sent le drive-thru.
Et donc, toutes les écuries suivantes donc sont passées en Q3. Donc, juste devant Toyota, avec une seule voiture également, c'est la Red Bull Renault. Et oui, Ferrari est en Q3.
Waouh.
Pourtant, il y a physique là. Hein.
Ah ouais. Donc, et il a réussi à être 14e sans pénalité.
Ouais. Non, mais on a un tir groupé quand même des écuries qui avec un seul pilote, quoi. Toyota, ouais. Red Bull, Ferrari.
Il doit y avoir McLaren devant, non?
Oui, mais eux, ils sont habitués, c'est pour ça. Donc Red Bull, Renault avec une position moyenne de milieu de grille, hein, 10 c'est-à-dire, puisque Weber...
1 plus 19.
1 plus 19, tout à fait. puisque Weber, donc, il nous a explosé sa coque.
Bah écoute, hein, après avoir explosé autant de moteurs, pour une fois qu'il change...
Oui voilà.
C'est vrai.
Hein, explose le moteur, explose la coque, la semaine prochaine ça sera peut-être les pneus...
D'ailleurs, on se demande même pourquoi ils ont roulé. Fallait pas rouler, ça servait à rien.
Devant Red Bull Renault, donc, on trouve l'écurie Ferrari. Bof. Malgré le fait que Fisichella ait encore une fois échoué en Q1. Je vais arrêter de le pronostiquer comme vainqueur de la course. Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Pourtant, c'est un pilote qui a un talent fou. Bon, tu vois.
Ouais, il a gagné une place grâce aux pénalités.
Ouais, voilà.
Il en a de la chance.
Waouh.
Celle d'Alonso.
Ouais.
C'est grâce à Alonso. Ouais.
Ah, voilà, tu vois, c'est Alonso qui fait des cadeaux à Ferrari en cette fin de saison.
Et on arrive sur le tir 7 tête, donc avec Brown Grand Prix, position moyenne 8, malgré donc les deux pénalités de Button et Barrichello. Avec une position moyenne juste devant McLaren, 7, ouais. Qui, un peu comme Ferrari, ne peut compter que sur une seule voiture.
Oh non, quand même, quoi. Non.
Si. Bah, il est passé en Q3, mais bon, qu'est-ce qu'il a fait?
Il a fait ce qu'il fait avec la stratégie de McLaren, à savoir charger comme un mulet. Il part sur la grille, il part avec 675 kilos, quand Lewis Hamilton part avec 656 kilos. Donc oui, il peut pas faire les mêmes performances.
Certes. Et notez que Kovalainen, c'est le meilleur pilote 100 ans.
Oui, voilà.
Oui, parce qu'il a pas fait de temps en Q3.
Et il est 11e.
Voilà.
Alors qu'il participait en Q3.
Bah voilà.
Et qu'il a eu 5 places de pénalité, donc il aurait dû être 6e.
9e.
100 ans.
Ouais, j'aurais dû être 9e.
Ouais.
Non, attention, mais... faut pas calculer, faut vivre dans, avec l'univers forme FIA dans la tête.
Voilà, faut chez eux, les gens de la FIA. Faire.
La FIA, c'est la 3e dimension, les maths n'existent
non,
pas.
Non, la 4e.
Oui, la 3e. Non, c'est quand même un peu, c'est incompréhensible pour le commun des téléspectateurs, je dirais.
Mais même pour les fans de F1, là.
Même pour les fans. Là.
Ouais, ouais, voilà.
Et puis, qui l'eût cru? Mais qui est-ce qui est en tête?
Alors attends, qu'est-ce qu'on n'a pas fait?
BMW.
Waouh!
Attends, comment c'est possible?
Avec 6,5 de moyenne.
Attends, avec combien de moyenne?
6,5. C'est ça qui est étonnant. Là, on a quand même des grands écarts, quoi, au niveau des équipes. Quoi. Puisque la première équipe a une position moyenne de 6,5. Voilà, c'est...
Ça nous change de la dernière fois. Mais par contre, moi, je serais curieux,
c'est la grille des extrêmes, quoi, en fait.
C'est de faire, parce que là, les écarts sont pas vraiment révélateurs des véritables performances, parce que tu mets BM en premier, ils sont, Kubica est 13e, et, Heidfeld, il est 6e, donc,
Ils sont 4 et 9 sur la grille.
Voilà. Ouais. Grâce aux pénalités.
Oui, oui. C'est en ça, quand même, qu'on s'aperçoit que c'est du grand n'importe quoi, la façon dont ils appliquent les pénalités, quoi.
Oui, bah, ils se sont dit, ça va relancer la course, ça va relancer Jean Penat, ça va mettre une course intéressante, parce que ça va reléguer derrière les voitures, soi-disant plus rapides, ce qui n'a pas forcément été concrétisé en course.
Non, pas vraiment, non.
Le truc qui est bien, c'est qu'ils ont appliqué la même méthode de calcul pour tout le monde. C'est déjà un grand effort pour la FIA.
Tu veux dire qu'ils n'ont pas fait de poids de mesure?
Pour une fois, non. Enfin,
non. Mais c'est ce qu'on veut, justement. Bon, maintenant, on va revenir un peu, maintenant qu'on a fait la grille, on va revenir sur la course.
Non, on va pas revenir sur la course. Non. Je peux pas dire on va revenir sur la course, ça veut dire on va revenir sur le défilé, mais pas sur la course.
C'est vrai que, bon.
Sincèrement, moi, j'ai vu les qualifs, j'ai été content. Parce que
les qualifs, c'était génial.
Elles étaient très bien.
Ouais.
Donc je m'étais levé déjà le samedi à 7h du mat pour voir un week-end, donc je me suis levé tôt alors que j'avais pas de golf ni quoi que ce soit, quoi, quand même.
Hein. Waouh.
Ouais.
Donc je me lève tôt. Le samedi soir, je fais un anniversaire. Je me couche à 2h du mat. J'ai mis le réveil à 6h30. Donc j'ai dormi 4h30 pour voir ça.
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 Eh ben, encore. Et encore heureux que ça faisait 2 ans qu'on n'avait pas vu Suzuka. Hein.
Ouais, voilà.
Donc, entre guillemets, il y avait ce côté, ouais, c'est génial, on revient à Suzuka. Oh, mon Dieu.
Ça fait longtemps que je m'étais pas autant fait chier pendant un Grand Prix.
Mais de toute façon, ça, c'est un peu une tradition cette saison, c'est quand la qualif est intéressante, la course l'est moins.
Peut-être.
Il y en a eu plusieurs fois cette année où on s'est dit, la course était chiante, mais quand même la qualif était bien. Et là, c'est pareil.
Surprenant quand même. Du moins, Suzuka, d'habitude, nous a toujours réservé quand même des belles courses. Je veux dire, c'est un circuit... Bon, heureusement qu'on a les caméras embarquées, parce que là, on s'aperçoit vraiment de ce que vaut le circuit, de ce que font les pilotes au volant. Mais ennuyeuse à mourir, jusqu'à ce que enfin un pilote décide à se mettre dehors.
mais je pense que les accidents à répétition le samedi...
Les ont refroidis.
Refroidi les pilotes.
Oui.
Ah, ce virage 9.
Puis alors en plus avec une course qui est quand même décapitée par le fait que Button et Barrichello veulent limiter la casse. On a une course qui a pas été vraiment super passionnante de ce point de vue-là, il y a pas eu de Vatou qui a été joué et on a l'impression quand même tout le monde s'est un peu contenté de sa position.
Ouais, puis Vettel a fait une course à la Vettel.
Oui.
Mais même on aurait pu se dire bon après la voiture de sécurité, c'est bon, il va avoir un restart, ça va remettre un peu d'enjeu.
Voyons.
Que nenni. Donc, très décevante comme course. Quoi. Il faudra peut-être proposer une note des courses l'an prochain. C'est une idée comme ça.
Par exemple, pour le, par rapport au classement, avant qu'on y revienne, les 7 oui. premiers du classement sont partis des 7 premières places.
Oui, oui voilà. Et les 3 voilà. premiers dans le même ordre.
Les 3 premiers, ouais. Oui, c'est pas, voilà. l'ordre n'a pas changé.
Bon, alors on a fait notre classement, donc comme depuis la dernière fois, sur pour, depuis le Grand Prix de Singapour, on a chacun voté pour les 8 pilotes qui nous semblaient les plus méritants. Pour cette course, sachant donc pour
sur les le... plus méritants, non.
Ça a été dur hein, quand même. Hein,
je tiens personnellement à nuancer cette phrase. Les plus méritants.
Pourquoi?
Personnellement, dans mon classement, je me suis permis quelques petites libertés.
Pourquoi? Parce que t'as mis un point physique et là.
Voilà. Oh. Je sais pas si dans le classement final physico.
Ah non. Alors pour cette course, donc il y a 12 pilotes qui ont été nominés, on va dire.
Par nous trois.
Par nous trois.
Nommé.
Oh la vache. C'est dire quand même qu'on n'a pas su quoi mettre quoi.
Ouais.
Ah je suis pas d'accord. Je pense qu'il y en avait moins.
Il y en avait que 9 à Singapour. Ouais. Il y avait plus un consensus. Là, le ouais. fait que la course était moins intéressante, c'est... on s'est permis, je pense, peut-être plus des coups de cœur personnels, etc.
Non, on a plus de.
Plus de les départager. Hein. Donc forcément.
Et je pense qu'il y a des surprises dans ceux qui sont pas retenus. Puisque, avec un point, nous retrouvons Sutil, que Shinji a mis en 8ème position.
C'est vrai, il a oublié Sutil.
Tu veux défendre son cas, peut-être, Shinji?
Non, franchement, j'ai pas envie de défendre de cas cette semaine. Je vous dis, hein, j'ai vraiment eu beaucoup de mal à faire cette liste. Et j'ai.
Non, mais.
Oui.
Non, mais Sutil, c'est vrai que par rapport au qualif, ça justifie.
Oui.
Autre pilote avec un point, Yannick a élu Fisichella.
Ouais.
Alors là.
Et personnellement, j'aurais mis 10 points parce que il m'a offert sans doute mon plus beau fou rire d'année. On s'était déjà foutu de la gueule de Badoer quand il s'était fait doubler. Enfin, il avait laissé sa place à Grosjean à la sortie de Valence. Mais là, on a quand même mieux. C'est que Fisichella n'a pas laissé sa place. Je sais même plus qui était derrière lui. Il s'est fait doubler. À la sortie des stands.
Eh ben, par
qui sortait du stand.
Par Kovalainen, et moi, je lui ai mis un point pour cette manœuvre. J'ai mis un
Kovalainen,
point.
Kovalainen qui double Fisichella. J'ai eu le fou rire de l'année, sérieusement. Et donc voilà, c'était pour récompenser ce Fisichella qui, sans doute de ma part, n'aura plus de points d'ici la fin de saison. Et s'il ne montre rien sur la Ferrari, et je vais pas non plus le charger, hein. La voiture aussi en est responsable. Il a des circonstances, entre guillemets, atténuantes. Mais voilà, il méritait, dans mon classement, il méritait un point.
Vivement Massa, quand même.
Bah, ce qui est drôle, d'ailleurs, c'est que, on sent, là, il y a plein de rumeurs comme quoi Massa pourrait revenir. Ils nous disent, bon, le Brésil, c'est trop tôt, c'est trop tard, là, on pourra pas. Mais bon, pour Abu Dhabi, peut-être. Les mecs sont quand même en train de se dire, faut quand même qu'on finisse la saison honorablement.
Eh ben, pour la même raison que tu as mis un point à Fisichella, moi, je l'ai mis à Kova. Parce que j'ai trouvé que son déplacement à la sortie des stands, bah, il était gonflé, quoi.
Ah ouais, bah oui.
Autant il s'est pas laissé faire quand il a failli se faire doubler. J'ai trouvé sa manœuvre très limite. Je crois que c'est avec Sutil justement.
Oui, avec Sutil, oui. Ah, il a bouffé du lion, hein, Kovalainen, hein, au Japon.
Ah, mais s'il habite Kovalainen, hein.
Ouais.
Mais bon.
Il avait déjà fait des difficultés à border en Angleterre, je crois.
Ouais, mais c'était bordel.
Non, en Allemagne.
Non, il y a que Kovalainen pour penser que c'était pas de sa faute.
Voilà.
J'étais surpris qu'il ait pas été pénalisé.
Pourquoi? Pour Sutil?
Je sais même pas de quoi vous parlez.
Pour Sutil.
Pour Sutil. Sutil l'a dépassé et en fait, il l'a touché, il a dégagé Sutil.
Ouais, complètement. Dans la dernière chicane.
Ouais. Et honnêtement, Sutil aurait dû passer. Hein. Bon, il y a de la, on va dire, c'est de l'incident de course, mais pour le coup, l'incident de course, la responsabilité, c'était surtout Kovalainen.
Ah, quand même, hein.
J'ai même pas vu la vache.
Tu t'es endormi. Moi aussi, j'ai eu de l'absence pendant le Grand Prix, hein.
Honnêtement, j'ai raté le, faut que tout vous raconter, ce Grand Prix a quand même été assez épique aussi. D'abord, je me suis réveillé, il était, je crois, 7h06, donc j'avais raté le départ, je me suis réveillé en plein milieu du premier tour. En me disant, en voyant l'ordre des voitures, je me suis dit, tiens, il s'est rien passé au départ, j'ai rien raté. Ensuite, problème de chaudière, j'ai dû intervenir vite fait sur la chaudière, ce qui fait que j'ai raté 10 minutes de la course, donc c'est sans doute à ce moment-là que j'ai raté les trucs.
C'est peut-être pour ça que t'as mis physique là. Un point.
Oui, voilà, c'est voilà.
Alors, 8ème ex-aequo. Alors, je sais pas qui est-ce qu'on va retenir, puisque c'est quelqu'un qui revient qu'une fois à la 7ème position. En fait, on a Weber et Button. Yannick a mis Weber 7e et Shinji Button. Donc pour les départager, je sais pas trop comment on peut faire. Bon, ça a pas beaucoup d'importance.
Pour les départager, on prend celui qui a fini meilleure place.
Non. Pour nous, avec l'ancienne version, du classement, on discute.
moi, je propose un truc. C'est comme moi, j'ai pas voté pour ces deux pilotes, je vais décider.
Tu écoutes nos arguments.
Weber, il a pas fait de course. Il a fait 1h30 d'essai.
Ah mais voilà. Donc ce qu'on fait, c'est que chacun présente ses opinions sur les deux pilotes, et après Enzo juge lequel est le mieux.
Ok, je voterai pour le plus court.
Non, moi c'est juste parce que Weber, voilà, il a fait d'abord il fait le meilleur temps en course, et donc voilà, et puis il a quand même fait toute une séance en partant en dernier. Il a fait 4 arrêts, il a travaillé pour l'équipe. Il fait pas la course, mais quand même ce qu'il fait en course, qui est suffisamment démoralisant pour un pilote, ce qu'il fait en course, ça mérite quand même d'être salué, parce que pour un pilote qui était censé jouer le titre, se sacrifier comme ça pour l'équipe, alors que moi personnellement j'aurais même pas couru, ça m'intéressait pas, il l'a fait, et c'est ça méritait qu'on le salue.
Mais t'as pas le permis de manière.
Ah.
Putain, heureusement que j'ai dit que je vais être pour le plus court, hein. Malgré ça, il sait pas faire court.
mais je sais pas faire court, voilà, moi je parle avec le cœur, monsieur.
Oh, c'est beau. Shinji, pourquoi Button?
Pourquoi? Parce que dans un Grand Prix où personne s'est doublé, lui, il partait de la 10e place, il a réussi à sortir les doigts du cul pour choper un point. Et on est enfin...
Non, je proteste d'abord pour pouvoir rallonger ton... Et ensuite, parce que il y a un copyright déposé sur l'expression sortir les doigts du cul. J'aimerais que tu respectes ce copyright, s'il te plaît.
Alors, il s'est défoncé pour réussir à choper un point. Hein, et je rajouterais que Weber, il a pas fait de course, il a fait 1h30 d'essai.
Oui, mais justement, dans un contexte de course, pour un pilote qui se bat pour le titre, je trouve ça honorable que de continuer à faire des essais. Il y en a certains qui auraient commencé à faire leur course et qui auraient baissé les bras après.
J'ai parlé quand tu as parlé? Non.
Mais tu m'attaques sur mon Weber.
Mais t'avais qu'à m'attaquer sur mon Button.
Mais je t'ai pas attaqué sur ton Button.
Bon, sachant que ça aura aucune importance vu qu'on va retenir que les 3 premiers, on s'en fout. 8e ex-aequo, Weber et Button.
Ouais, Weber, il marque des points.
Mais non, on retient que les 3 premiers.
Oui, mais il marque des points virtuels.
Ah, d'accord. En 7e position, c'est un consensus, Rosberg. Puisque Shinji et Yannick l'ont mis 6e, moi je l'ai mis 7e. Putain, c'est
pas la vache, c'est moi encore une fois.
C'est fou ça. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Juste devant lui, Alonso, que Shinji a complètement oublié.
Non mais, il y a un consensus pour Rosberg, mais on n'a rien à dire.
C'est un consensus mou.
Voilà.
Voilà, ça arrive. Tandis que pour Alonso, Shinji l'a complètement zappé.
Parce que je l'ai complètement zappé pendant sa course au Japon.
Non mais attends, tu peux pas, le mec qui part 16e, non, tu peux pas, t'as pas le droit, non.
Et par contre,
tu peux pas zapper, tu peux pas donner des points à Button en disant Button c'est le seul qui dépasse sur la piste et totalement zapper Alonso alors que Alonso part 16e et qu'il finit, que je regarde sur le classement, qu'il finit 10e, il gagne 6 places. Et c'est pas grâce aux abandons, c'est pas au stand, c'est aussi en dépassant.
Je suis assez d'accord, mais celui qui dit ça, Yannick, il a complètement zappé Hedfeld, qui termine juste devant lui.
Non, je n'ai pas zappé Hedfeld. Je n'avais tout simplement pas envie de saluer la prestation d'Hedfeld.
Ah bon? Monsieur.
Bah non, parce que Hedfeld, je suis désolé, il gagne des places sur la grille grâce aux pénalités, il se fait doubler par 2 pilotes pendant la course, il fait pas une prestation qui mérite que je lui donne mes suffrages.
Le SAV l'a néanmoins classé 5e, grâce à la 3e place que je lui ai donnée, et à la 5e de Shinji.
Non mais sérieux les mecs, Hedfeld faut arrêter quoi.
T'as bien dit Fisichella.
Attends, toi t'as pas. T'as...
Oui mais alors, je suis d'accord. J'aurais pas dit Fisichella, j'aurais mis Hedfeld, mais un point seulement.
T'as pas vu le Grand Prix?
Non mais j'ai quand même vu le principal. C'est sérieux, faut arrêter avec Hedfeld les mecs là-haut. C'est bon. 3e. Ah non. Ça veut dire que tu l'as mis devant qui?
Alors, en 4e position,
Ah, on arrive à des vrais pilotes là quand même.
Un Finlandais que vous avez tous les deux mis troisième et que j'ai mis ouais. que j'ai mis combien aussi loin que ça. Je l'ai mis sixième moi.
Tu l'as mis que sixième.
Raikkonen.
Sa voiture elle est même plus en développement, il a réussi à.
Alors je vais vous expliquer pourquoi.
Vas-y.
Il n'a pas été capable au restart de doubler Hamilton qui avait pas de Kers. Eh ben, je suis désolé, mais pour reprendre votre expression, il aurait pu sortir les doigts du cul à la fin.
Oui, mais quand
voilà,
même.
C'est la raison. Non, mais je justifie simplement pourquoi je n'ai pas mis Raikkonen plus haut, parce que on était persuadé quand même qu'il aurait pu aller chercher Hamilton, il aurait pu faire un podium de plus, ça aurait fait le, je sais pas combien de suite.
Ah non, parce qu'il n'a pas fait le podium la dernière fois.
Bon, ça va, tu suis. J'étais plus sûr pour Singapour.
Je joue à top speed, mais en même temps, je suis.
J'ai le classement devant les yeux. Donc, voilà pourquoi je l'ai mis.
Mais tu m'as converti, Enzo. Tu m'as fait découvrir qu'on pouvait faire deux choses en même temps. Tu m'as converti à une. Tu m'ouvres de nouveaux univers, de nouveaux horizons. Je t'en remercie.
Je t'en prie.
Non, mais j'insiste.
Je reverrai ce plaisir-là la semaine prochaine. Dans 15 jours. Et on arrive enfin non, moi, au podium.
Ah non, sur Kimi, je voudrais juste dire, il y a un argument qu'a dit Shinji, comme quoi la voiture était plus en développement, etc. Oui, elle est plus en développement.
Mais quand t'as une voiture qui est au top, t'as pas besoin de la développer, quoi.
Non, mais quand t'as une voiture qui est plus en développement. Non, mais la voiture est plus en développement, d'accord, mais c'est pas non plus devenu une épave. Il est pas non plus en train de piloter une Force India. Puis là, tu te Ferrari. Elle était pas à l'aise à Singapour. Là, elle est quand même, entre guillemets, dans les performances qu'on peut attendre de Ferrari, c'est-à-dire une quatrième place au classement général par équipe.
Il termine quatrième, c'est bien.
Ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a eu des dépassements, enfin qu'il a fait une course solide, je trouve.
Oui.
Même si, comme toi, je regrette qu'il n'ait pas pu. J'y croyais. Hein. J'étais là, le supporter, je fais allez Kimi, puis au bout de deux virages, j'ai dit bon bah c'est pas grave, quatrième, c'est bien.
Et puisqu'on parlait de Lewis, eh ben il termine sur la troisième marche du podium. Alors là, c'est le consensus. Tout le monde l'a mis quatrième.
Ouais.
Et donc il termine troisième.
Magie des mathématiques.
Ah, c'est vrai que t'as mis Eiffel troisième.
Oui, je suis désolé. C'est comme ça.
En fait, notre classement, il a peut-être inspiré la FIA pour cette semaine.
Peut-être.
Il est troisième alors que tout le monde a mis quatrième. Voilà.
Bon, on avait déjà le cas la dernière fois. Hein.
Oui, voilà.
Ouais, ouais.
Donc, il marquera pour le classement SAV 2009 un point.
Ouais. Mm-hmm.
Donc, je t'encourage dès maintenant à mettre à jour ton tableau.
Il y est mis, monsieur. Oh, quelle mauvaise langue.
Attends, tu l'as pas mis en ligne avec le Japon, déjà.
Si!
Mais
si.
Mais t'es fou!
Quand on a commencé l'émission, il y avait déjà le tableau.
Du Japon?
On n'a pas de visiteurs.
Ah non, mais ils vont savoir à l'avance ce qu'on a décidé de mettre.
Non, mais c'est pas grave.
Non, mais de toute manière, les gens consultent pas cette page, ils savent que c'est pas mis à jour.
Et voilà.
Bon, et enfin, les deux meilleurs pilotes. Bon, bah là encore, on n'est pas tout à fait d'accord. Pardon, Yannick n'est pas tout à fait d'accord.
je savais que ça allait tomber dessus. Je savais qu'en le mettant premier, on allait me demander pourquoi.
Puisque Trulli Yannick met Trulli devant Vettel, tandis que Shinji et moi avons mis Vettel devant Trulli. Ordre logique. Et Vettel finit premier, donc devant Trulli. Donc tu vas pouvoir justifier ton choix.
Oui, j'ai combien de temps?
2 minutes chrono.
2 minutes chrono. Alors non, Trulli, c'est d'abord il fait un bon week-end dans l'ensemble. Et moi, ce que j'ai aimé dans Trulli, on l'a suffisamment critiqué au cours des années et nous cette année dans le SAV en disant que il était très bon en qualification, mais assez mauvais en course. Là, il se fait doubler par Hamilton, il reste sur les talons d'Hamilton, il arrive à se sortir les doigts du cul pour réaliser les temps nécessaires avant l'arrêt au stand pour pouvoir repasser Hamilton à la faveur des arrêts au stand. Il finit deuxième. Il m'a fait pour Trulli, le portrait que j'ai de Trulli dans ma tête, il m'a fait une course qui m'a impressionné. Vettel, il fait un week-end impressionnant, il est super fort ce week-end et il mérite totalement d'être premier dans le classement du SAV, mais il a fait une course pour Vettel, c'est pas étonnant ce genre de course. Moi, je trouve Trulli, voilà, Trulli, il s'est sorti les doigts du cul.
Oui, mais Trulli, il a pas de contrat l'an prochain. C'est pour ça, il nous a fait une Kubica en fait.
Oui, mais voilà, ça empêche pas, ça empêche pas. Voilà, ça empêche pas. C'est...
Regarde Kubica, il avait signé. T'as vu la course qu'il a fait ? Bon, il est pas dans notre classement.
Et je me suis même pris à prier à la fin pour que il arrive un truc à Vettel.
Non.
Que Trulli le passe.
Bah non.
Ah oui, moi je me suis mis à prier, je me suis dit, de toute façon le championnat est foutu. Alors finir avec une victoire de Toyota au Japon, ça serait génial.
Mais pour eux c'était comme une victoire.
Voilà, ouais, c'était comme une victoire.
Donc on rappelle notre classement: Vettel, Trulli, Hamilton, Raikkonen, Hedfeld, Alonso, Rosberg et Weber Button pour la dernière place. Si on compare ça avec nos auditeurs.
Non, on peut mettre Weber puisque. Comme Shinji a dit pour Alonso que il a oublié Alonso, alors qu'Alonso a doublé, je pense qu'on peut quand même exclure tout de suite Button.
C'est moi qui anime, je fais ce que je veux.
Ah, le dictateur.
J'ai été à bonne école. Et donc, pour comparer avec...
Oui, mon fils.
Ah, ça s'est inversé. Je suis ton père. Au niveau de nos auditeurs, donc on retrouve les deux meilleurs, les deux mêmes pilotes en tête, mais plus franchement, puisque Vettel fait un suffrage unanime avec 5 fois la première place. Donc,
chers auditeurs, pensez à Trulli, regardez cette course.
Eh bien, Trulli, tout le monde a pensé à lui à la deuxième place, sauf TNT, qui l'a même pas mis dans son classement.
Ouais, alors en plus, là quand même, ouais. TNT, en plus, je crois qu'il nous a pondu Raikkonen troisième.
Non, en plus, il nous a mis deux fois le même pilote.
Oui, deux fois Hedfeld.
Il nous a mis deux fois Hedfeld. Mais il a oublié Trulli. On va dire que c'était une erreur.
Oui, voilà.
Par contre, nos auditeurs sont plus fans que nous de la Scuderia, si c'est possible, ou bien moins honnêtes. Donc ils ont mis Raikkonen devant Hamilton.
On a Iceman quand même déjà, donc déjà ça fait peser sur le suffrage. Et je crois qu'en plus TNT nous a mis Raikkonen troisième.
TNT, non, c'est Maël qui nous l'a mis troisième, ainsi que Berthaillot.
Ils sont plus fans de Ferrari que nous. Ils sont fans de Ferrari, fans d'Alonso.
Donc inversion Raikkonen-Hamilton par rapport à nous, et ensuite on retrouve Rosberg, Hedfeld, Kubica que nous on a complètement zappé, Globen l'a mis troisième. Ah bah oui, pardon, si je bête.
Ah bah oui, c'est vrai. Non, c'est pas Globen qui est fan de Kubica, c'est Stéphane. Et
Stéphane, c'est qui?
C'est TNT.
Oui, bah c'est le même.
Mais non, Stéphane, c'est TNT.
Bah, appelez-vous de la même façon tout le temps, quoi. Moi je suis paumé.
Vous vous appelez auditeur, voilà.
Et donc 8e pour les auditeurs, c'est Alonso, que TNT a mis sur le podium carrément. Et puis derrière on retrouve Sutil, nommé 3 fois, Button, nommé une fois par Maël, à la 6e place.
Maël, ne te sens pas seul, tu es copain copine avec Shinji, vous avez les mêmes idées.
Et ensuite on a Alguersuari. On a Globen qui nous a voté pour Weber. C'est ton fils. Et on a Icemaner qui a mis un point symbolique pour Glock.
C'est gentil.
Pour l'ensemble de son œuvre.
Ah, non, tu peux pas dire c'est gentil pour Glock et dire que, voilà, Weber, il a fait une course de merde. Shinji, on se comprend plus, toi et moi. Qu'est-ce qui nous arrive?
Nous avons juste 40 minutes de retard. Tout va bien. Donc voilà, c'était le classement de la course. Est-ce qu'on peut rajouter quand même, parce qu'on nous a reproché de pas revenir assez sur la course, il y a peut-être des pilotes qu'on a oubliés. Là, on a parlé de Kimi, donc on nous le redira pas. Plus dire d'autre sur la course, pas grand-chose. Quand même.
Je pense qu'on pourrait parler de la course plutôt discrète de Ralf Schumacher.
Exact.
Oui, mais Bourdais en est bien sorti quand même.
Voilà. Et pour une
fois. J'ai bien aimé quand il a attaqué Montoya.
Il n'y a pas eu d'erreur, il n'y a rien eu, voilà.
Et Piquet a évité tous les murs.
Oui, bien sûr. Alors, quoi que, là où il va, les murs, on va y en avoir.
Certes. Enfin, moi, j'ai bien aimé la course de Jim Clark quand même.
Ouais. Non, puis en plus, revoir Senna et James Hunt ensemble. Ils ont jamais couru ensemble, mais les voir ensemble, ça m'a fait plaisir.
Ils ont jamais couru ensemble? Non, ils ont jamais couru ensemble, exact.
Attends, c'est qui le professionnel de la question historique, là?
Il y a que Barrichello qui a couru avec Senna. Hein.
Ouais.
Oui.
On va
dire avec Fangio.
Je crois même qu'il a couru avec Fausto Coppi.
Avec Fangio. Mais il l'a battu, Fangio, il me semble. Hein.
Oui, oui. Non, puis il a non. même couru avec Faustocopy.
Oui.
Ah oui, c'est un cycliste.
Ah, il faut avoir la culture pour la comprendre, cette blague. Non, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on dise d'autre sur la course
Le classique. Eh bien, je propose...
Le top 8 en dit déjà suffisamment sur la course.
Service après-vente de la F1.
Le service après-vente de la F1 vous présente la question historique. La question que si tu réponds pas, t'es aussi bon qu'Yannick.
Excuse-moi, j'ai cliqué Pete. Je voulais pas te couper comme ça. Puis une fois que c'était parti, je me suis dit, bon, on va laisser aller au bout.
Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave, je m'en rappellerai.
Ah non, c'était pas du tout voulu.
Ouais, ouais, c'est ça, ouais.
Allez, je te le refais si tu veux.
Non, non, ça va aller.
Service après-vente de la F1.
Le service après-vente de la F1 vous présente la question historique. La question que si tu réponds pas, t'es aussi bon qu'Yannick.
Ah, ça me vient celui-là.
Celui-là aussi, je l'aime bien.
Ouais,
celui-là aussi, je l'aime.
Mais il défonce plus l'oreille.
Alors, messieurs, la question historique. Ou devrais-je plutôt dire les questions historiques?
Ah non, j'ai prévu que... Combien de temps j'ai prévu?
J'ai prévu que 5 minutes.
Non, ça va être bon. Alors, rappelez-vous, la semaine dernière, on était... Ouais, c'est la semaine dernière. Oui, c'est la semaine dernière. On était un petit peu coincés avec la question historique à Singapour. Donc, on avait parlé d'un autre circuit.
Oui.
Et ben là, pour la question de Suzuka, j'ai décidé de faire pareil.
Il va nous parler de Fiji.
Non, je déconne. Non, la question historique à Suzuka, je suis obligé de faire sur Suzuka. Alors, messieurs, on est au Japon.
Oui.
Avec une écurie japonaise qui est montée sur le podium. Donc, on va faire une question spéciale Japon. J'ai deux questions. Une qui s'adresse à Shinji et une qui s'adresse à Enzo. Vous connaissez la règle, pas d'internet, rien, juste.
Est-ce que je peux répondre à celle de Shinji et inversement?
Tu peux,
non.
Alors, c'est Shinji qui doit répondre, mais tu peux l'aider, tu peux, il peut te poser des questions et tu dis oui ou non. Voilà.
Ok.
Voilà. Donc.
Et encore faut-il que je connaisse la réponse.
Shinji, la question est très simple. Combien de fois Toyota ou un moteur Toyota est-il monté sur le podium au Japon?
Il y a cette année?
Oui, bravo!
Ouais!
Un point. Au Japon.
Oui, au Japon, Japon. Pas au Japon, Strasbourg. Je tiens à signaler quand même.
En attendant, le service après-vente vous propose une pause musicale. Mais j'en ai pas, merde.
Il y a cette année.
Ouais.
En même temps, des bonnes voitures, Toyota, ils ont pas fait si souvent que ça, donc.
Oh, je peux pas te laisser dire ça.
Bah non, mais je dirais que cette année.
Eh bah oui, effectivement, il y a qu'une seule fois que Toyota est monté sur le podium, et c'est en 2009.
Je t'ai bien soufflé.
À signaler qu'ils sont rentrés 6 fois dans les points, Toyota, depuis leur arrivée en 2002. La première fois, c'était en 2003 avec D'Amata, qui était 7e. La deuxième fois, ils sont rentrés dans les points, c'était avec Schumacher, en 2005, qui avait fait la 8e place. Et qui avait réalisé la première pole position de Toyota en Formule 1.
Ah ouais,
sur
son
circuit, enfin sur le circuit de Honda. En 2006, Schumacher avait fait la 7e place et Trulli 6e. Et en 2008, Trulli avait fait la 5e place. Voilà, donc ils étaient une seule fois dans les points sur leur circuit à eux à Fuji en 2008. Mais sinon, leur premier podium, il est fini sur les terres de Honda.
Je vous ai déjà parlé de Leighton House.
Ça me dit quelque chose.
Non, bon.
Alors, justement, Enzo.
Eh oui.
Ta question pour toi. Tout simplement.
Leighton House.
Combien de fois, y compris cette saison, combien de fois un moteur japonais est-il monté sur le podium à domicile?
Ouh, c'est plus dur, ça.
Ah bah, c'est quand même Enzo, spécialiste de l'histoire de la Formule 1 dans cette émission.
Alors,
j'ai m'étonné, quand même.
Donc, Toyota?
Toyota en 2009.
Honda, ils ont dû y monter, quand même. Je crois que... Attends, Takuma Sato, il a fait un truc au Japon.
Ouais, c'était, il avait marqué un point.
Il a dû marquer qu'un point, ouais. C'était pour Aguri d'ailleurs, Super Aguri.
C'était pour Jordan et que à l'époque c'était Pierre Vlandlis qui présentait et qu'il avait dit regardez les jaunes, ils sont en jaune parce que les Japonais étaient habillés aux couleurs de Jordan. La classe.
Alors la classe.
Carrément.
Alors sur Honda, j'ai un doute, j'en sais rien. Après je me demande s'il y aurait pas une Larousse Lamborghini Yamaha Alors, non, ils avaient peut-être un moteur Lamborghini, pas Yamaha.
On va les vérifier. Il n'y a que moi qui ai le droit de vérifier. Hein.
Oh, oui, je me doute bien.
Et Shinji, maintenant que Shinji a eu sa question. Ah.
Shinji, ton avis? non, mais à mon avis, on va dire Honda, ils l'ont fait, pourquoi? Ah merde, non, je dis une grosse connerie.
Il vient de se rappeler d'un truc dans l'histoire de la Formule 1.
Bah oui, que McLaren avait un Honda.
Et bah
puis,
oui.
Et puis, Williams aussi.
Oui. Oh, putain.
En 92, c'est une victoire Honda.
Alors 92,
je pense que c'est Senna.
C'est Senna. Ah, non, 92, c'est McLaren Honda sur avec Berger.
Ah, c'est en 92 qui lui a donné la victoire.
En tout cas, c'est Berger qui est deuxième.
Ouais.
En 91 aussi. En 91 aussi.
91, c'est McLaren Honda, Berger premier, Senna deuxième.
Voilà. Et c'est là que Senna a donné la victoire à Berger. Donc 92, 93, non. 93, non. Alors, pourquoi 93, non. Non, c'était McLaren Ford, non. Non.
Pour apprendre à ta question, Yamaha a bien fait deux podiums, mais ça n'a jamais été au Japon.
Ah. Et c'était avec quelle écurie?
C'était avec Arrows et Tyrrell. Arrows en 97 en Hongrie avec Damon Hill et Tyrrell avec Blundell à Barcelone en Espagne. Donc, tu nous as dit McLaren Honda avec Berger en 92,
90, il s'est accroché avec Prost, donc c'est pas Senna. Voilà. Berger, je sais pas ce qu'il a pu faire, à mon avis c'était Piquet ou Nannini qui a gagné. J'aurais tendance à dire, en 89, j'aurais tendance à dire la même chose. À moins que Prost ait gagné le titre en 89. En 89, ils ont gagné aussi. Bon, je vais dire 10 fois.
10 fois ? Alors,
10.
Je calcule 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois.
Ah.
Alors, c'était première fois en 87, Lotus Honda avec Senna deuxième.
Ah, sur le podium,
ah,
en plus,
sur le
pas
podium.
La victoire.
Ah ouais, je les ai mis.
Oh, c'est encore plus dur,
difficile. En 88,
c'était la victoire.
En 88, doublé Senna Prost.
Attends, donc t'en comptes 2.
Ah, donc j'en compte 2. Donc ça fait 2 sur 8. 91, tu nous l'as dit, McLaren Honda, Berger, Senna, premier, deuxième. 92, McLaren Honda, Berger, deuxième. Ça nous en fait 2, 4, 6. 2009.
Non, t'en as déjà 8, là.
2009, avec Toyota, pour Trulli, deuxième, ça fait 7. Et tu as oublié un podium en 2004.
Si, Baronda.
Baronda, voilà. Baronda avec Button qui avait été troisième.
D'accord.
Voilà, voilà. Donc, j'ai tendance à dire que Shinji est bien meilleur que moi, par contre, Nezo.
Ah, oh, la question non, était dure quand même.
Faut remonter à 88. Tu regardais même pas la F1, toi.
Non, c'était pas ça. En plus, j'étais persuadé que tu ferais mieux. Honnêtement, franchement, je m'attendais à ce que qu'au moins dans les équipes, tu fasses un peu mieux.
Bah, j'ai trouvé toutes les
non,
équipes.
Non, t'as pas trouvé Lotus, t'as pas trouvé Baronda.
Ah non, Lotus. Non, Baronda, je le comptais si tu veux. Quand j'ai dit 10, j'ai arrondi parce que je me suis dit qu'ils en avaient fait un ou deux.
Ah, et tu parlais de Suzuki, il a fait 3ème en 90 sur une Lola Lamborghini.
Voilà. Ah, ok, c'est pas une Larousse, c'est une Lola, et puis, toi, je pensais Larousse Lamborghini, bon, ok. Mm. C'était un japonais, c'était le premier podium d'un pilote japonais.
Voilà. Et le seul.
Non, Takuma Sato.
Il a fait des podiums, lui?
Bah, bien sûr.
Ouais, on a.
si, Takuma Sato, et Nakajima, il en a pas fait un?
Oh, Nakajima, non.
Un podium?
Yeah, oui, Takuma Sato.
Non, pardon, pas Nakajima.
Takuma Sato aux États-Unis sur Baronda, effectivement.
Voilà.
En 2004.
Et attends.
Yaguri Suzuki en 90 sur le Lamborghini.
Et ça, c'est celui qu'on disait, mais il y en a eu un autre. Comment il s'appelait?
J'ai deux podiums.
Katayama.
Hein, pour le Japon.
Katayama, non, jamais. Bon, Katayama.
J'ai
non.
Deux podiums pour le Japon.
Et ben voilà, c'est eux deux.
Donc voilà, c'était la question historique que si tu réponds.
Eh ben merci Yannick, surtout, tu l'as bien soigné, hein.
Ouais.
Aux petits oignons.
Ah, là, elle a été faite sur mesure.
Je le note. Non, mais je me fais un petit dossier.
Je me doute.
On va enchaîner maintenant avec nos faits marquants. Et toujours pas de jingle pour les faits marquants. Ça va pas.
Oui,
ça,
c'est vrai, ça tient.
Ça manque de jingle.
En plus, j'avais dit un nouveau jingle par émission et
Alors déjà, on va peut-être retourner sur l'effet marquant l'an dernier, de la semaine dernière.
Oui, avec ce scandale.
Mais laissez-moi parler. Mais laissez-moi parler. Je donne la parole si j'ai envie. Non, mais... Donc, l'effet marquant qu'on vous proposait pour le Grand Prix de Singapour.
On va quasiment faire aussi long que d'habitude.
Était les qualifs qui vont pas au bout. Oui. Sutil qui provoque le premier abandon d'Hetfeld en 2 ans. Et Button qui va chercher des points intermédiaires. Donc, Button qui va chercher les points intermédiaires marque 28%. Sutil qui provoque le premier abandon d'Hetfeld en 2 ans. 33%. Et la victoire me revient avec 39% pour les qualifs qui ne vont pas au bout.
Je crie au scandale.
On enchaîne tout de
je
suite.
Je crie au scandale. Je m'en fous. Je rajouterai quelque chose si on me coupe la parole. Je crie au scandale parce que non seulement Enzo a voté 2 fois, mais en plus on a aussi Maël qui se met à voter 2 fois.
C'est pas bien.
Mais... Donc sur les 7 votes d'Enzo, en fait, il y en a que 5 qui sont valables.
Eh bien, je suis quand même en tête.
Non.
Bah non.
Le
marqueur
moral, c'est Sudi.
Non, je pense que Maëlle est dans le même cas que moi. C'est-à-dire qu'elle est dans une société où si quelqu'un d'autre de son bureau va sur le site et vote,
non.
il retient la même adresse.
Vous vous calmez les Flavio Briatore.
Hey, monsieur Enzo, depuis le début de saison, je regarde les statistiques, comme par hasard, ton collègue de bureau, il a tout le temps voté pareil que toi. Le mec qui pense comme toi à chaque Grand Prix.
Mais j'ai des fans, moi aussi. Si tu veux, j'ai une équipe et les gars, s'ils veulent que je finisse leurs vacances, ils sont bien obligés. Bon, j'avoue, à un moment on était côte à côte, il y en avait. Oh non, je crois qu'on était tous à égalité.
À toute façon, j'ai
cliqué une fois de plus pour passer. De...
Ça m'a tenté au boulot, mais je me suis dit non, Yannick, reste intègre.
Oui, mais peut-être que Maël, c'est pas ça.
Ouais, mais...
c'est vraiment une de ses collègues.
Non, je doute.
Ouais.
Il faudra lui demander. Je demande la vidéo. Je demande l'arbitrage vidéo. Je propose que chaque auditeur qui vote allume sa webcam avant de cliquer, qu'on puisse s'identifier.
Et que chaque auditeur aussi s'achète une souris avec sur le bouton un détecteur d'empreintes digitales.
Yannick, j'y peux rien si tu fais des sites qui sont pas assez sécurisés.
Non, ils sont sécurisés puisque
après
j'ai vos noms qui sont
inscrits. Oui, alors plus, ça, la prochaine fois, je t'assure qu'il y aura pas 2 fois mon nom.
Je rajouterai même que en ce qui concerne Maël, elle est inscrite 2 fois sous 2 noms différents, 1 fois sous son fois sous son nom de famille.
Oh, c'est pas bien, Maël.
Donc là, il y a eu de la fraude. Toi, autant, Enzo, bon, ben voilà, c'est...
Maël, tu es la honte, tu es
l'habitude. L'autre, comment il se décharge sur Maël.
C'est une honte, Maël. Je ne cautionne pas cette attitude.
Et après, on va venir, moi, je suis de mauvaise foi.
je ne pourrais plus te faire gagner au concours Top Pop. Ce ne serait pas possible. Moi qui m'arrange à chaque fois pour tricher pour que tu sois tiré au sort. Bon... Eh bien maintenant on va revenir au fait marquant de ce Grand Prix du Japon. Donc c'est qui finit derrière? Bah c'est moi. Bah c'est
moi. Non, non, non.
Non. T'as triché.
Ok. J'ai une position de pénalité.
Non. Tu gardes ta position de tête. Tu as revendiqué la victoire. Garde la.
Bon bah Yannick.
Eh ben moi, mon fait marquant, ce serait Yarno Trulli qui fait enfin une vraie...
Ah non ! Oh non ! Je suis pas d'accord.
Pourquoi ?
Parce que j'ai le même.
Bah dommage.
Voilà ta pénalité.
Bon, alors vas-y, va jusqu'au bout.
Bah non, mais tout ce que j'ai dit, c'est Yarno Trulli qui fait enfin une vraie course.
Bah justifie. Ah.
L'autre justifie pour qu'il en cherche un deuxième et... Débrouille-toi. J'ai dit.
Eh bien, je dirais tel Jésus multipliant les pains, la multiplication des accidents qualifs.
Oui, c'est noté. Yannick, tu notes, hein?
Oui.
Bien sûr.
En attendant d'avoir le...
Et moi, et donc...
le fait marquant du Grand Prix du Japon de Enzo, nous allons vous diffuser une petite intermède musicale.
C'est un peu nuancé. C'est Trulli qui ne s'écroule pas. Non mais c'est texto ce que j'avais mis. Non, moi ce que je veux mettre c'est la foultitude de pénalités lors des qualifs.
Donc tu as dit la foultitude, hein.
La foultitude. Donc rappelle-moi donc les trois faits parce que j'en ai raté un moi.
Donc c'est Trulli, donc vous aurez le choix. Non, je dis rien. C'est Trulli qui fait enfin une vraie course. La multiplication des accidents en qualif et la foultitude de pénalités en qualif.
Ah, t'avais mis ça, Shinji, toi?
Ouais.
Ouais, j'avais pas entendu.
Shinji a parlé des accidents, alors que toi, tu parles des pénalités. C'est deux choses.
C'est pas exactement la même chose, ouais.
Bon, t'as raison, allez.
Eh. Hey.
Ok.
Ouais, je vais gagner.
Ouais. Bon, de toute manière, y a rien de mieux, donc.
Bah ouais, voilà.
Donc, nous vous encourageons donc à voter pour ceux que vous
à voter une seule fois.
Une seule, bien.
Attention, on vous regarde.
Maël, que je ne te reprenne pas. Donc, votez pour le fait marquant du Grand Prix de Singapour. Je crois pas qu'on ait eu des auditeurs qui nous en aient proposé cette semaine.
Non, de toute façon, ils nous en proposent jamais.
De même qu'ils appellent plus le répondeur. Faut dire, la ligne est en dérangement. Yannick n'a pas payé la dernière facture.
C'est donc, vrai.
C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas, malgré tous les messages que vous voulez nous laisser, vous ne pouvez pas en ce moment. Mais on va remettre ça en place très rapidement. Avec le chèque que j'ai fait à Yannick, il va pouvoir régler ses dettes.
C'est la raison.
On attaque maintenant sur les classements du championnat, Shinji.
Oui, les classements. Rappelons que nous sommes à deux courses de la fin.
Ouais.
Hein. Ce qui veut dire que pour les pilotes, il n'y a plus que 20 points maximum à distribuer. Et pour les constructeurs, il n'y a plus que 36 points.
0,5 suffiront.
Chez les pilotes. Donc, ils sont toujours 3.
Hein. Yes.
Jenson Button, 85 points. Qui est assuré d'être en tête du classement à la fin du prochain Grand Prix.
Oui.
Puisque Rubens Barrichello, avec 71 points, a 14 points de retard. Ça veut quand même dire qu'il va devoir rattraper plus de 7 points par course. Hein.
C'est faisable.
On l'a déjà vu, c'est faisable.
Et c'est Sébastien... pas un fan de Kimi qui va me dire le contraire.
Non mais c'est pas sûr que là il laisse Barrichello et Button se taper sur le coin de la figure comme l'a fait Ron Dennis avec Alonso et Hamilton.
Ouais.
C'est aussi ce qui a aidé Kimi, c'est qu'il y a eu une lutte interne. Là la lutte interne elle reste quand même entre deux gentlemen.
Et notons que Vettel lui aussi avec sa victoire il est toujours en course.
Mais bien sûr il va être champion du monde, je vous le dis depuis.
Je retourne ma veste toujours.
Et Vettel, il a 16 points de retard. Donc là encore c'est possible, mais c'est faisable. Chez les constructeurs, il a manqué... Et comme quoi, je vous l'avais dit, hein, ces demi-points, ils allaient compter à la fin du championnat. Il manque un demi-point à Brown pour être titré.
Ouais, il compte à la fin du championnat, il reste deux courses quand même.
Voilà.
Oui.
Quand même de fortes chances maintenant que Brown soit titré quand même.
Je regarde là très rapidement les derniers résultats de Button. Si on regarde quand même, si on fait une moyenne sur les tac, allez, je vais être sympa. Sur les huit dernières courses. 7, 8, 9, 10, 11. 12.
Il a marqué. Ouais, oui.
24, ça lui fait une moyenne de 3 points par course.
Bah, c'est suffisant.
Tout juste.
Voilà.
Vraiment tout juste.
Il sera à égalité avec Barrichello.
Autant les 7 premières courses, c'est la carte.
Quelque chose comme plus de 30 points. Hein.
Ah bah oui, largement. Il en a marqué 12, 20, 40 points il a marqué.
Ouais.
Non, c'est Vettel ça, pardon. Ça c'est Vettel, qui pendant le même temps en a mis 40, alors que Button en mettait que 24. Et 35 pour Barrichello, quoi. Moi, je dis, tout est encore grand ouvert quand même.
Oui,
c'est comme vous l'avez dit, hein, c'est toujours possible. Hein. Deux mauvais résultats et pouf.
Mais même deux résultats moyens comme il fait en ce moment, quoi.
Ah là, ouais. Oui
mais maintenant c'est là où ça ressemble un peu à 2007, c'est que aujourd'hui, Vettel il a qu'une seule chose à faire, c'est gagner les deux prochaines.
Ah ouais, voilà. Lui, oui,
par contre, si Vettel ne gagne pas les deux prochaines courses, c'est quasiment mort pour le championnat, puisque on voit quand même mal aujourd'hui Barrichello faire gagner alors que Button soit moins fort. Voilà, en ce moment le truc qui est assez consistant, c'est que sur les derniers grands prix, bah Barrichello et Button se suivent. Donc aujourd'hui, le seul qui pourrait enlever le titre à Button, à mes yeux, c'est Vettel. Mais il faut que Vettel gagne les deux prochaines courses, ce qu'il est capable de faire, et que Button fasse des mauvais résultats.
Moi, je vois quand même qu'on va arriver sur un circuit rapide quand même au Brésil.
Brésil, ouais.
Donc comme Spa, comme Monza, comme ici à Suzuka. Donc on a vu que sur ces trois circuits, les Red Bull, les Brown, elles sont pas au top. Donc point négatif pour Button, mais pour Barrichello aussi. Et Barrichello, il sera chez lui au Brésil.
En plus, au Brésil, oui, mais il peut ne pas faire super chaud.
Barrichello, il y est quand même allé, il y a quand même piloté pour Ferrari, il a jamais été capable de s'imposer, donc.
On est d'accord.
Il y a aussi pour Barrichello un espèce de syndrome Interlagos qui est.
Je suis d'accord.
J'aimerais qu'il y gagne, parce que je pense qu'il aura pas le titre, au moins gagner chez lui, ça serait chouette.
Ouais.
Ce qui va importer pour Button, c'est au moins de finir dans les points. Si jamais il se tape une bulle, là.
Faut qu'il joue l'épicier maintenant, il a pas le choix. Chaque point compte.
Oh bah il le fait déjà.
Oui, mais ça veut dire que là il va commencer à compter encore plus. N'importe qui l'attaque, il va se dire est-ce que je défends ma position, est-ce que t'es dans une situation quand même où tu flippes un peu plus quand même.
Voilà. Ouais. Il faut qu'il soit dans les points, hein. Stagné en 10e, 11e, non, surtout pas.
Et puis en plus lui il a pas envie de faire comme Schumacher. Je sais pas si Enzo a lu l'interview de.
Si, je l'ai lu. Ouais.
Et il a dit qu'il voulait contrairement à Schumacher avoir son titre avec Fairplay. Il voulait pas mettre le cap dehors.
Déjà qu'il s'occupe à gagner son titre.
Voilà. Ouais. Déjà. À réduire la marque à 7-1, ça sera déjà.
Je pense que quand on a l'occasion d'être champion, faut déjà la prendre. Hein. Voilà. Après.
Je pense que s'il est à 4 ou 5 points. Seulement de Vettel ou de Barrichello lors du dernier Grand Prix, qu'il a l'occasion de faire une
Schumi.
Voilà, je pense qu'à ce moment-là, tout mec qui sont quoi, Senna l'a fait, Schumi l'a fait, ils vont réagir instinctivement, en foutant l'autre dehors, en n'hésitant pas à faire des petits coups de salopard à certains pilotes pour gagner une place. Il va devenir tout d'un coup plus agressif et ça c'est naturel, c'est normal. Les mecs se battent pour le titre, c'est quand même.
Sachant que dans le pire des cas, il aura quand même soit 4 points d'avance sur Barrichello ou 6 points d'avance sur Vettel. Avant Abu Dhabi.
Voilà. Hein. Oui, il aura encore un matelas confortable, quoi.
C'est même plus un matelas, c'est une couette. Hein.
Bon, et bien voilà la position au championnat. Donc, championnat encore ouvert pour notre plus grand bonheur. Hein. Oui. Espérons que ça dure jusqu'à la dernière course. Mais si on attaque avec les drive-thru of the race.
Service après-vente de la F1.
Le service après-vente de la F1 vous présente les drive-thru of the weekend. Quand les animateurs disent que franchement, c'est pas bien.
Alors ça, c'est un drive-thru spécial pour Maël qui vote deux fois.
Genre, il a pas suffisamment de problèmes en ce moment avec nos auditeurs. Il faut qu'il rajoute une couche.
On m'a dit que j'étais de mauvaise foi, j'assume. Eh bien, je te propose de nous parler de ton drive-thru. T'as eu tout le temps d'en trouver un.
Mais le truc, c'est j'hésite entre deux, donc à la limite, je préférerais le faire à la fin.
Ouais.
Chers auditeurs, notez que je ne suis pas le seul à voir.
Alors, je veux bien te donner mes deux. Je te dis les deux, puis je vais choisir.
Non, Cindy, vas-y.
Non, je vais le faire en premier, excuse-moi. Je vais le faire en premier, comme ça on pourra pas dire que...
Et en ce moment, il gagne du temps.
Je vais m'obliger à choisir, j'avais le choix entre la FIA et Red Bull, et je vais choisir la FIA.
Encore ?
Voilà.
Encore?
Pourquoi? Ouais. Parce qu'ils ont pas pénalisé Nico.
Non, mais ce qui est bien, c'est que derrière l'étiquette la FIA, on peut toucher plusieurs réalités. C'est pas la FIA, c'est plutôt Bernie Ecclestone d'ailleurs. Donc je retire. C'est pas un bref à la FIA, c'est un bref à Bernie Ecclestone. Et à la FIA, à tous ces mecs-là. Comment est-ce qu'on a pu un temps penser, prétendre à ce que Fuji puisse remplacer Suzuka?
Ça s'appelle du lobbying, ça.
Certes, la course a été pas très intéressante, mais comme l'a dit, comme tu l'as dit Enzo en début d'émission, quand on a la chance d'avoir une caméra intérieure et de voir un pilote piloter sur cette piste, et on se dit comment un mec a pu penser qu'on pouvait aller sur cette daube de Fuji et que les gens y prendraient autant de plaisir. La course a été chiante. Moi, j'en ai pas vraiment tiré une expérience astronomique, contrairement à d'autres courses cette saison. Et pourtant, ça a été un putain de plaisir que de revoir ce circuit, qui est un circuit mythique, qui est un magnifique circuit, qui est un challenge énorme, qui est un circuit bonhomme. Enfin voilà, c'est un circuit de pilotes. Et on nous l'a montré ce week-end avec les jeunes débutants qui ont raté, que le seul qui s'en soit bien sorti véritablement, c'est Hamilton. Et il voilà, c'est un grand pilote, un grand champion. Donc voilà, c'est ce genre de circuit qu'on nous supprime parce que, comme tu le dis Enzo, à cause du lobbying, et que on ne devrait pas nous supprimer. Il y a des circuits comme ça qui devraient être obligatoires dans le championnat. Voilà.
Ok, très bien. Si ça t'embête pas, Sinji, je vais enchaîner tout de suite avec mon drive-thru.
Vas-y.
Parce que moi, mon drive-thru, ce n'est pas contre Nico qui n'est pas pénalisé. Non, ce n'est pas ça. C'est contre le circuit de Suzuka, justement.
Oh.
Je suis désolé. Bon, non, pas le circuit en lui-même est superbe. Tu l'as dit, voir les enchaînements des premiers virages, des premières chicanes, c'est il y a que des virages qui sont géniaux là-bas. Ouais. Par contre, moi, ce que je reproche, c'est qu'il y a certains virages. Alors, je veux pas qu'on dénature complètement le circuit, mais où on arrange peut-être mieux des dégagements pour que, quand il y a une erreur, que ce soit pas systématiquement un drapeau rouge ou une safety car. Safety car, c'est quand même un truc qui est complètement artificiel pour la course. Certes, ça a relancé la fin de la course, là, mais sur beaucoup de circuits où est sorti Alger Suari à la fin de la course, il serait sorti, on aurait dégagé sa voiture et ça aurait continué. Là, il y a quand même plusieurs enchaînements où les dégagements sont peut-être pas assez grands ou c'est dès qu'il y a un incident de course, c'est drapeau rouge en qualif et c'est safety car. Donc c'est un peu dommage, ça rajoute un côté artificiel et plus loterie. On l'a vu d'ailleurs sur les qualifs, hein, avec toutes les pénalités qu'il y a eu. Voilà, ça a été la loterie quand même, la grille de départ. Bon.
T'as réussi à faire aussi donc moi.
Non.
C'est quand même, faut quand même regarder qui sort. Ceux qui sortent, c'est les jeunes, c'est les débutants. On n'a pas eu de grosse erreur des autres. C'est Alguer Seri qui sort, c'est Buemi qui fait une boulette, c'est Glock qui sort, c'est des mecs qui n'ont jamais piloté à cet endroit-là. Donc, est-ce qu'il faut remettre en cause le circuit? Je pense qu'il faut surtout remettre en cause les pilotes. D'ailleurs, Alguer Seri l'a reconnu lui-même, il a dit, bon, cet endroit-là, il n'y a pas assez de dégagement, etc. Mais il a dit, moi, si je suis fautif, je suis rentré trop vite alors que je savais qu'il ne fallait pas que je rentre trop vite.
C'est un circuit super exigeant, hein, c'est pas de nouveauté. Hein.
Voilà.
Sinji?
Alors moi, je vais donner un drive-thru contre une équipe. Et non, ça ne concerne pas directement la course, mais c'est l'attitude d'une équipe qui commence à me gonfler. C'est l'équipe Williams.
Ah oui. Oh bon, en plus on a parlé tout à l'heure.
Voilà, c'est pour ça que j'en ai parlé. Ça m'énerve parce que c'est bien simple. Je vais résumer en une seule phrase. Ils disent toujours non. Alors ok, bon, la troisième voiture, ils ont dit non. Pour les tests de Schumacher, ils ont dit non. Mais là, qu'est-ce qu'on apprend? L'équipe Sauber, puisqu'il faut l'accord de toutes les équipes, ils ont dit non. On est arrivé dans une situation où on est quasiment certain que chez Williams, ils vont dire non. On est même arrivé à un point où, là, cette semaine, on a parlé de la possibilité de Massa de faire des tours pour voir un peu ce qui va aller.
Eh bien, non.
Eh bien, alors, ils ont dit oui. Exceptionnellement, ils ont dit oui, mais je peux te dire que à partir du moment où on a annoncé la possibilité que Massa puisse faire des essais, qui est-ce qu'on a regardé? On n'a pas regardé Ferrari, on n'a pas regardé McLaren. Tous les yeux se sont tournés vers Williams, parce qu'on sait très bien que c'est eux qui disent toujours non. Je peux même te dire, là, j'ai la première page de F1 Live.
Il est énervé, je dis.
Ah, je vois ça.
Donc, sur la page de F1 Live, la page de garde, la première page, il y a donc les news avec leurs archives. Qu'est-ce que je vois parmi les archives? Massa bientôt en piste à Fiorano, rien d'exceptionnel. Et en dessous, Williams ne s'y oppose pas. On est rentré dans une logique où quasiment, voilà, dès qu'il y a une décision plus ou moins importante, parfois, ils ont raison de s'y opposer. Mais c'est devenu systématique. Williams, c'est l'équipe qui dit non. Et ça commence quand même à gonfler, quoi.
Comme c'est une écurie qui dit non, 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 non. À chaque Grand Prix, elle dit non, 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 non.
Bah c'est tout à fait ça. Ce qui fait qu'il y a plein de choses qui pourraient peut-être être faites, on peut pas les faire parce qu'ils disent non. Là, Sauber, puisqu'il faut l'accord de toutes les équipes, Williams dit non. Alors, ils sont pas les seuls, mais ils disent non.
Shinji, j'aimerais tempérer ton propos, je te trouve injuste avec Williams. Parce que je vois là.
Parfois, ils ont raison de dire non.
Non, mais je vois là sur F1 Live, la page principale d'F1 Live, ils ont annoncé Robert Kubica chez Renault, mais pour le moment, Williams ne s'est pas prononcé. Williams n'a pas mis son veto.
Ah, pas encore.
Pas encore.
Pas encore.
D'ailleurs, il paraît que c'est des rumeurs qui circulent que le deal entre Renault et Williams, ça aurait été justement pour pas que Williams dise nous on veut Kubica. Enfin, si jamais il y a Renault qui vient chez Williams.
Ouais. Bah non, ils vont dire non.
Bah ouais, voilà. Ah, je vais te l'écrire la chanson, Shinji. Tu vas être obligé de nous la chanter.
Oh, attention, moi je me méfierai. Hein.
Ouais, voilà. Non, voilà.
C'est... Oh là là. Qu'est-ce qu'il y a du Mistral là.
Oh, c'est la tempête ici. Ah, vite, accrochez-vous.
Bon, on va conclure ce SAV avec notre fameux concours que la France entière nous envie. Voilà. Que toutes les chaînes de télé ont essayé de nous racheter. À prix d'or, il faut bien le dire.
Ouais, même TF1.
Même TF1. Mais on va déjà commencer par tirer au sort, donc le...
Et vous savez quoi? Au niveau des faits marquants de la course, il y a quelqu'un qui a voté.
À l'instant?
Il y a 19 votes.
Non.
Ouais.
Et c'est qui passe devant?
En fait, j'arrive à égalité avec toi.
Bon, Shinji, on va revenir sur le concours top position du Grand Prix de Singapour. Ouais.
Non, non,
tu peux
non.
Nous rappeler la...
Le concours top, oui. Pas position.
Mais c'est ce que j'ai dit.
Non, tu dis top position.
Donc, top pas position, mais c'est parce que je le dis très vite.
Parce que j'ai aussi le droit, je crois que c'est Stéphane qui dit le concours pas top position.
Pas top. Ah, c'est mieux.
Moi, j'ai mis
pas top. Ah non, c'est mieux pas top position. Ah tiens, je vais changer. Donc, Shinji, la dernière question du concours pas top position était...
Quel groupe de rock a offert une guitare à Vettel?
Et la réponse
était... C'était les ZZ Top!
Donc, parmi les bonnes réponses, nous avons Maël.
Ouais.
Ensuite, Maël. Bah, deux fois, forcément. Kevin, TNT et Globen. Donc, je vais vous proposer quatre lettres. Qui c'est qui veut tirer au sort?
Oh, moi, je veux bien, s'il te
plaît. Il le fait jamais.
C'est vrai.
Je veux bien, moi.
Je te propose le S, le L, le F et le P.
Le F comme Ferrari.
C'est qui Stéphane?
Stéphane, c'est TNT.
Et merde.
Le fan de Robert Kubica.
Et merde.
Ça m'arrange parce que je vais devoir lui envoyer, et je vais devoir lui envoyer ces deux magnettes en même temps.
Eh bien, TNT, félicitations, tu gagnes encore. Pour notre plus grand plaisir.
D'ailleurs, en parlant des magnettes, je m'excuse auprès de ceux qui attendent impatiemment depuis plusieurs semaines leurs magnettes. Je n'ai pas eu le temps d'aller faire mes courses et j'ai pas le temps de trouver ailleurs du film pour recouvrir les magnettes. Donc, je m'en occupe dès demain. Promis.
Parce que les manettes sont faites depuis déjà des mois.
Oui, elles sont faites depuis des mois. On a même anticipé sur le champion, mais on vous dira rien.
On avait anticipé après 4 courses.
Voilà.
Essayez de trouver.
Attention, on a pris des risques.
Eh bien, nous allons maintenant avoir droit à la question du concours pas top position du Japon. Jingle.
Service après-vente de la F1.
Le service après-vente de la F1 vous présente le concours top position présenté par Enzo. Heureusement qu'on coupe au montage, sinon ça serait aussi long qu'un tour de Lucas Badoer.
Vous venez d'écouter le SAV de la F1 spécial Grand Prix du Japon. Participez maintenant au concours Top Pas Position en répondant à cette question afin de gagner un magnifique magnète. Après son accident pendant les essais, Timo Glock n'a pas participé à la course. Il était néanmoins présent dans les stands avec un plâtre à la jambe. Mais quelle était sa jambe touchée, la droite ou la gauche? Répondez à cette question en utilisant le formulaire contact du site du SAV www.savf1.fr.nf. A très bientôt pour le Grand Prix du Brésil.
Ah mais il y a pas un autre boum. Donc Yannick, il faudra que tu cherches pour trouver la réponse. Je l'ai pas.
Ah non, c'est HG.
Oh là là,
c'est lui qui s'occupe de la prochaine émission.
Bon courage. Donc dans 10 jours maintenant, avant dernier Grand Prix, Brésil. Patrie de Barrichello, patrie de Felipe Massa, mais qui sera absent. Patrie de Piquet, mais qui sera absent aussi. Vos pronostics?
Barrichello?
Je dirais Felipe Massa. Vettel.
Donc Fisichella là?
Non, Vettel.
Oh, bon non. Si vous dites Barrichello, Vettel, non.
Bon, je vais dire Button, voilà, comme c'est. J'ai trop envie qu'il casse le championnat avant. Ce grand barnum que sera Abu Dhabi. Que...
Moi, Vettel. Quelle surprise.
Waouh.
Wow. Il a pas intérêt de gagner, celui-là. Moi, je vais l'avoir sévère, là.
C'est clair. Eh bien, Yannick, Shinji, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'avoir participé à ce SAV.
On va dans rien.
Merci Yannick de nous avoir laissé un peu plus la parole que d'habitude.
Oh non.
Et d'avoir... J'espère que toi, ça t'a plu aussi, ce rôle.
Oui, moi, oui.
Je propose qu'on attende la prestation de Shinji, puisque Shinji nous animera le Grand Prix du Brésil, et qu'à l'issue, un vote populaire des visiteurs élira le meilleur animateur.
De toute façon, tu vas encore voter 2 fois.
Bon, eh bien, bonne soirée à tous et à très bientôt.
Salut à tous.
Service après-vente de la F1.
Pour des raisons techniques, votre correspondant n'est plus disponible actuellement. Veuillez renouveler votre appel ultérieurement. Pour des raisons techniques, votre correspondant n'est plus disponible actuellement. Veuillez renouveler votre appel ultérieurement.